Bienvenue sur Légende, le seul podcast où les célébrités et les anonymes nous racontent leurs histoires les plus incroyables.
One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice
dress. It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
Légende Podcast.
C'est Claude Dartois aujourd'hui avec Guillaume Play pour le média Légende.
Ben voilà, et il est d'un professionnalisme ce garçon. Ça va ou quoi ?
Ça va bien ?
Ouais. Bienvenue, ça fait plaisir de t'avoir.
Merci Guillaume.
On se connaît très bien avec Claude. On a fait un tournage ensemble de l'émission sur M6 des traîtres, hein, pour tout vous dire. C'est comme ça qu'on se connaît vraiment.
C'est
très
vrai.
Bien. On s'est rencontrés avant.
J'hésitais à venir d'ailleurs, parce que c'est un traître. Il m'a éliminé. Alors je sais. Non, comme quoi, tu vois, je t'en veux fort, mon Guillaume.
Pardon, quoi.
Je
vous explique avant de commencer l'émission. Moi, je connaissais évidemment Claude de Koh-Lanta, de l'émission Koh-Lanta avant, etc. On s'est rencontrés un petit peu avant le tournage d'M6, on se retrouve.
C'est
on
vrai.
Sympathise très très fort, pour tout vous dire, dans le train. On se dit, ok, on se lâchera pas, mon frérot, t'inquiète pas, peu importe ce qu'on sera comme rôle, etc. Et en fait, moi, je deviens traître dans l'émission, ouais. Et lui devient loyal, enfin, voilà. Villageois.
Et je choisis de donner ma confiance, ma pleine confiance, à un candidat parmi les 16 pour pouvoir avancer pleinement dans le jeu et avec le maximum de possibilités possibles. Je choisis forcément Guillaume. J'avais bien visé, parce qu'il était très... Mais au final, pas tant que ça, t'as vu ?
Et en fait, au final, on se dit, ouais, on se dira tout, tout... Et en fait, je me dis, merde, attends, si je lui dis... Et en fait, quelqu'un me dit, un traître, sans dévoiler de nom, me dit, attention, il joue contre toi. Et je me dis, mais attends, c'est mon pote, il joue contre moi, mince et tout.
Alors, c'est-à-dire qu'en fait...
Il est hyper fort, je me suis dit, il a quand même fait 4 fois la finale de Koh-Lanta, c'est qu'il est quand même très stratège, et tout le monde avait peur de Claude. Son mythe le précède, en fait.
Mais tu sais que
le précède.
J'ai toujours été loin dans mes aventures, pour quelle raison ? Tu vas jamais seul au bout de l'aventure, tu vas parce que t'as des alliés. Les
exact.
Alliés sont importants, les gens sur qui t'appuyer, à un moment donné ou à un autre, t'as forcément besoin. Là, j'ai jamais gagné toutes les immunités, j'ai jamais été protégé à tous les conseils, à un moment donné, on m'a protégé parce que j'avais une team avec moi, j'avais des gens. Et ben, dans les traîtres, je voulais avoir une ou deux personnes sur qui m'appuyer, t'en faisais partie. Manque de peau, bah, t'avais le rôle qui était difficile ici, donc t'as joué pour toi.
Excuse-moi une dernière fois. Voilà, devant les...
Le jeu, c'est le jeu, t'inquiète.
Et c'est horrible parce que le matin, pour tout vous dire, je savais qu'il avait été éliminé la veille au soir en conseil, et le matin, on se dit, ah viens, on fait des photos, souvenirs.
Photos, souvenirs.
Et moi, je sais qu'en
avant
fait,
de dire au revoir.
10 minutes après, il va arriver dans le tournage, il va se faire éliminer et tout. C'était abominable ce moment. Et bah, bref, c'était assez dur psychologiquement, hein, ouais. Le tournage des traîtres. Ouais. Il y a eu carrément un suivi psychologique de certains candidats. Après, ils sont allés voir le psy et tout. Enfin, c'était officiel, hein, ils l'ont dit. Ça a été assez difficile de mentir sur plusieurs jours. C'est-à-dire que mentir sur une partie de loup-garou, quand tu joues aux cartes avec tes potes, un quart d'heure, ça va. Quand ça dure 10 jours, c'est long. Hein.
Non, mais moi, c'est pour ça que j'ai toujours dit, c'est difficile. Moi, je ne suis pas resté suffisamment longtemps pour pouvoir avoir été impacté par le tournage, par l'attention, la pression qu'on peut ressentir. Mais c'est vrai que pour le rôle de traître, en l'occurrence, de devoir se cacher... Devoir toujours déjouer les pièges, devoir faire attention à tout, c'est dur, psychologiquement c'est lourd, et je pense que les gens ne s'en rendent pas bien compte chez eux à la télé, devant leur télé. Et c'est pour ça que ça reste un jeu, il ne faut pas leur en vouloir, ils ont fait le jeu, et c'était lourd pour tout le monde en vrai.
On va revenir sur ta vie, c'est le but de l'émission, de comprendre. Mais juste avant, est-ce que c'est aussi difficile les traîtres, ou c'est plus difficile, ou c'est moins difficile qu'un Koh-Lanta, toi qui as vécu les deux émissions ?
Bah déjà, c'est difficile pour moi de répondre à cette question parce que je n'ai pas eu les mêmes parcours dans les deux émissions. Il y en a une où je suis resté très longtemps, il y a plusieurs reprises, et où j'étais au bout à chaque fois, et une où vraiment, au tout début, j'ai été évincé. Donc, je n'ai pas eu cette longévité dans les deux émissions identiques qui font que je peux avoir le même rapport. Je pense que les deux sont durs sur différentes formes. On joue forcément avec de l'humain, on vient tous avec des opinions, des envies et des souhaits différents. Et le problème dans ces émissions-là, c'est que on doit faire son propre chemin au détriment des autres. Alors il faut justifier ses choix, d'éliminer, d'évincer, d'enlever. Voilà, il y en a, ils viennent pour certaines raisons, pour se dépasser, d'autres qui viennent pour ramasser l'argent, d'autres pour les associations. Peu importe la raison pour laquelle tu viens, tu dois quand même sacrifier l'aventure de quelqu'un, et c'est ça qui est dur dans les deux cas.
Ouais. Tu vas nous parler de Koh-Lanta. Moi, je ne connais pas très bien. Je te l'ai toujours dit, d'ailleurs, j'ai vu des extraits de toi, évidemment, partout, mais je ne connais pas très bien. Tu as été en finale en 2010, 2012, 2019 et 2020. où tu as gagné, mais tu n'as pas gagné l'argent à la fin. On va y revenir pour comprendre tout ça. Et tu as le record, j'avais noté, du nombre de victoires avec 22 succès en épreuve individuelle. Donc, tu as quand même marqué le jeu fortement. Moi, c'est un des rares copains, je connais quelques personnes du milieu, mais qui se fait autant arrêter dans la rue. C'est-à-dire que les gens te kiffent vraiment, t'es chouchou de ce jeu-là. Toujours aujourd'hui, quoi. 3 ans après la dernière saison.
Ouais, c'est vrai. J'ai fait 4 participations sur une décennie. Ça, quand même, c'est assez long, assez large. C'est mais long. C'est vrai que j'ai deux saisons assez rapprochées récemment, qui sont 2019 et 2020, qui ont plus eu lieu. La première pendant une période difficile du confinement, où tous les yeux étaient rivés sur l'émission des gens. Et peu de programmes de divertissement autour. Donc, ce qui a accentué forcément la visibilité sur moi et mon parcours. C'est vrai que voilà, moi ça m'a apporté beaucoup parce que les gens sont tous bienveillants avec moi, sympas, et je pense qu'ils s'y retrouvent dans le fait que je me sois toujours engagé dans mes émissions. J'ai jamais lésiné à me lever, à faire des actions, à m'investir pleinement sur le camp, dans les jeux, dans la stratégie, ce qui fait que ça a peut-être marqué les esprits de certains.
Ouais, plus que tu sors un livre chez Marabout. Je vous mets la pochette là. Ça s'appelle Zéro limite à tes rêves. Il est sorti. Donc si vous voulez le télécharger ou l'acheter directement, vous pouvez le faire avec le lien cliquable en dessous de la vidéo si vous voulez le retrouver facilement. Pourquoi t'as sorti un livre ? Explique un peu ce que c'est dedans.
Eh bien, ce livre Zéro limite à tes rêves, c'est beaucoup de travail.
Ça fait phrase d'inspiration déjà.
Oui, bah de base, je voulais l'appeler Zéro Limite, simple, mais il avait déjà été pris ce nom par d'autres livres inspirationnels. Et donc, pour des raisons, je pense, de législation et de loi,
tu aurais
rajouté à tes rêves. Mais de base, je voulais l'appeler Zéro Limite, simple, parce que je pense que dans la vie, c'est ce qu'il faut qu'on garde en tête, c'est de ne pas s'auto-limiter dans tout. Après, ce livre, je l'ai écrit pour quelles raisons ? Ça fait 4 ans qu'on me propose d'écrire un livre. À chaque fois, je repousse, je dis non, parce que d'une, je me sentais pas prêt. De deux, il fallait vraiment trouver quelque chose qui me corresponde et je voulais m'y investir pleinement. J'avais pas le temps nécessaire à y accorder. Et puis, je suis pas un littéraire de base, donc c'est pas un exercice facile pour moi de prendre un crayon et de poser des idées. Là, il venait au moment où j'avais un peu plus de temps. Voilà, on m'a proposé un prêt de plume au début aux éditions Marabout, une personne qui serait dédiée à
venir,
pour m'aider à l'écrire, pour l'écrire même en prenant des interviews de moi. On a passé du temps à échanger ensemble. Moi, je lui balançais des gros paragraphes comme ça de ce que je pouvais mettre de bout en blanc pour qu'elle puisse le mettre en page et ressortir un peu tout ce qui pouvait être intéressant dans mon livre. Et quand on a fait ce premier travail, elle a commencé à me sortir un premier jet de tout ça. Quand je l'ai lu, ça ne me correspondait pas en vrai. Je lui ai dit, Fabienne, je suis désolé, mais je ne me retrouve pas dans ce que tu as écrit. Et puis, il y a plein de choses que je t'ai dites en off, que je ne voulais pas forcément que ce soit dit comme ça dans le livre. Donc, je vais tout reprendre.
Et tu as écrit tout seul ?
J'ai écrit tout seul, finalement, j'ai tout repris.
C'est vrai ?
Ouais, 90%, parce que là-bas, elle m'a laissé une structure de base sur laquelle j'ai pu continuer à travailler. Mais je lui ai dit, voilà, je ne voulais pas quelque chose qui soit aussi biographique sur moi. Donc, j'ai coupé des chapitres. Et puis, j'ai trouvé que c'était mieux qu'on ait un livre, qu'on puisse poser dans un coin, reprendre, sans avoir à lire du début à la fin, en prenant peut-être simplement ce qui t'intéresse, et que ce soit assez lisible et facile. Donc, à partir de cette base-là, ouais, j'ai tout réécrit. Ça m'a pris beaucoup de temps.
Et c'est quoi, en fait, le concept du livre ? C'est-à-dire que tu... Après, on va reprendre ta vie pour comprendre, justement, faire un parallèle et tout, mais c'est quoi le concept ?
C'est un livre un peu témoignage des différentes difficultés qu'on peut rencontrer avec différents sentiments, comme la peur, le courage, l'engagement, tout ce qui fait que... on puisse avoir un meilleur état d'esprit général. C'est ce qui m'a servi à moi dans ma vie de tous les jours, depuis que je suis tout petit jusqu'à aujourd'hui. J'ai pas la science infuse pour dire que ma méthode, c'est la meilleure, et au contraire, pas loin de moi, cette idée-là. Simplement, voilà, si mon parcours et la façon dont moi, ça m'a aidé, ça peut aider certains, tant mieux, et c'est ce que j'ai voulu mettre dans ce livre.
Alors, pour reprendre ta vie, toi, t'es né à Aubervilliers, père boucher, mère au foyer. C'est ça. Toi, tu voulais faire quoi comme métier quand t'étais gamin ? T'étais dans le sport ? T'étais comment ?
Ouais, moi, j'ai grandi dans le 19e arrondissement de Paris. Je suis le deuxième de la famille. J'ai une grande sœur. On partait, classe moyenne. Mon père travaillait bien, avait une boucherie, propriétaire d'une boucherie. Ma mère n'avait pas besoin de travailler. On n'avait rien qui manquait à la maison. Et donc moi, j'avais pas forcément de vision au long terme de ce que je voulais faire. Un peu plus tard, après, oui, je voulais, j'aurais eu des rêves de sport, j'avais des rêves de voyage et tout, mais j'avais pas un métier en particulier qui me faisait rêver ou qui m'inspirait dès mon plus jeune âge.
C'est parce que par rapport à ton livre, on sent que t'es déter de base. C'est-à-dire que quand on te connaît un peu, on voit que tu lâches pas. C'est souvent lié à l'enfance quand même et à ce que tu as vécu, les drames, les moments de joie, tu vois, etc. Tu as perdu ta maman très jeune.
Ouais.
Tu as été élevé par ton papa tout seul. Comment ça s'est passé?
Oui, je pense que toi, il y a vraiment une cassure dans ma jeunesse. C'est à partir justement de cet événement-là, au décès de ma mère, j'avais 9 ans. Et tout bascule un peu, tu vois. Et c'est là où...
Bah, elle était jeune, elle?
Bah, moi, elle était jeune, ma mère, oui, elle est morte, elle avait 30 ans. Un cancer de l'utérus, à l'époque, ça se soignait assez bien, mais elle était plus suivie par un gynécologue assez régulièrement, donc ils l'ont découvert assez tôt. Mais voilà, elle avait ce côté italien borné, de ne pas vouloir se faire soigner dans les hôpitaux, pensait qu'avec la médecine naturelle, elle arriverait à s'en sortir. Et voilà, elle était têtue, c'était une femme forte, voilà, elle était dans ses idées. Donc elle a voulu... Et je pense que peut-être elle avait l'idée encore de faire des enfants, donc c'est vrai qu'elle n'a pas voulu non plus se faire opérer de suite. C'est une opération en plus qui se déroulait assez bien, qui avait un beau taux de réussite à l'époque déjà. Elle a continué comme ça avec les traitements jusqu'au jour où, bah voilà, au bout d'un an, ça n'allait plus. Mon père l'a quand même emmené en Suisse voir des spécialistes. On avait des machines électroniques à l'époque, je me souviens, à la maison, qui sortaient d'ailleurs. Voilà, elle a fait beaucoup de sacrifices aussi pour pouvoir l'aider. Mais au final, ça n'a pas suffi. Le jour où elle a voulu se faire opérer, c'était trop tard. Et voilà, donc elle est partie tôt, à 30 ans.
T'as déjà vécu plus qu'elle?
Et aujourd'hui, j'ai vécu plus qu'elle. Et c'est pour ça que chaque jour, moi, je suis content, parce que chaque jour qui dépasse depuis mes 30 ans, c'est des jours gagnés, entre guillemets, pour moi.
Ah oui, tu te dis, j'ai de la chance.
Je me dis, oui, j'ai la chance de vivre des choses que. Après, ça peut arriver à tout le monde d'avoir un drame, mais moi, je prends toujours l'exemple de ma mère, forcément. Et je te dis, la cassure, quand j'étais petit, elle vient de là. Parce que jusqu'avant 9 ans, j'ai la vie un peu de tous les enfants. On part en vacances régulièrement, tout se passe bien. À partir du moment où ma mère part, c'est plus la même chose, tu vois. Je perds un pilier. Mon père s'en retrouve à travailler, à gérer 2 enfants à la maison. Ma sœur part chez ma tante pour alléger un peu mon père aussi. Okay. Et moi, je suis un peu livré à moi-même parce que mon père, c'est un bosseur. Il n'a pas cette fibre paternelle qu'on a, nous, peut-être les papas d'aujourd'hui. Mmh. Voilà, il me laisse un peu vaquer, un peu en me faisant confiance, quoi.
Ah, moi,
j'aurais pu mal tourner parce que, ouais, j'ai traîné un peu aussi, j'ai fait mes bêtises en ayant, franchement, voilà, d'un seul coup, tu te retrouves avec plus de cordes, plus rien.
Tu
peux aller super loin, tu vois. Moi, au début, j'avais ma mère, j'avais mon père, j'avais le cocon, voilà, j'étais protégé,
cadré.
J'étais cadré. Quand on t'enlève un peu ce cadre-là et que tu as nos limites dans le fait d'aller explorer ce que tu as envie d'explorer, bah, tu peux aller loin dans les bêtises et dans plein de trucs.
Donc, il te laissait faire un peu sur les horaires, il ne disait pas tiens, rentre tôt.
Des bases comme ça, mais ensuite en vrai, voilà, il ne surveillait pas ce que je faisais à l'école, il ne venait pas aux réunions de parents d'élèves.
Oui, c'était.
Tu vois, t'as pas.
Plus que faisait ta mère avant.
Bah non, donc ouais, voilà. Après, j'ai eu la chance de rencontrer un ami à moi qui s'appelle Marco, qui est mon pote d'enfance, qui est un peu comme mon frangin. Il y a mon frangin, même maintenant, qui habite au Canada. Lui, il avait ses parents, fils unique, donc pas de frère. Des parents italiens, habitaient à côté de chez moi. Je passais tous mes week-ends chez eux. Et j'ai grandi à travers lui. Et ce cadre que ses parents lui amenaient, qui m'ont permis justement de pas trop me perdre.
Ah oui, t'es un peu cadré, ouais.
Oui, bah
une
oui.
Sorte de vie familiale qui n'était pas la tienne, mais qui était un peu la tienne, ouais, finalement.
Peut-être rapporté un peu, mais...
Ah, c'est ça, c'est ça.
Mais voilà, c'est...
Et aujourd'hui, avec ton père, après, tu as grandi avec lui, vous avez des bons rapports ou...
J'ai toujours eu des bons rapports avec mon père. J'étais là, moi, pour pas le déranger. Je voulais qu'il me laisse ma liberté. Donc, pour qu'il me laisse ma liberté, il fallait pas non plus que je me fasse remarquer. On avait dans notre maison chacun notre espace.
Ah oui, c'était très indépendant.
Voilà, je le croisais. Il y avait des horaires assez difficiles avec le...
Vous
faisiez
quoi?
Avec Boucher, dans la boucherie. Donc, il partait très tôt le matin, il rentrait tard le soir. Voilà, on se croisait. Des fois, on mangeait ensemble, des fois, on mangeait pas ensemble. Voilà, il me demandait si ça allait. Je disais oui, ça suffisait, tu vois. Donc, voilà, franchement, j'ai toujours des bons rapports avec mon père. C'était un bosseur, il avait des grosses qualités, courageux, bosseur. Mais c'était, voilà, il n'y avait pas forcément des gros échanges. Après, il avait une vie difficile, hein, mon père. Hein, tu vois, c'est des vies de bosseur. Elle a commencé à 13 ans à travailler. Elle a un premier mariage. Moi, j'ai une demi-sœur, un demi-frère que je n'ai pas forcément connu. Et après, c'est mis avec ma mère. Ma mère était 19 ans plus jeune que lui. Il nous a eu, nous. Enfin, tu vois, moi, il m'a eu à 45 ans. Enfin, c'est vraiment,
oui,
c'est des trucs
âgé,
tu vois, qui font que, voilà, c'est pas des parcours.
C'est pas
classiques.
Des vies familiales classiques.
Non, évidemment.
C'est fou. Et alors, moi, je ne savais pas, quand je t'ai rencontré, je te connaissais de par l'émission de télé, etc., mais tu as été chauffeur, et tu as été chauffeur jusqu'à il n'y a vraiment pas longtemps, en même temps que tu faisais Koh-Lanta.
Ouais.
Tu étais chauffeur de maître.
En 2010, j'étais déjà chauffeur. J'ai toujours été chauffeur en freelance. Moi, je bossais pour différentes boîtes dans Paris.
Mais c'est pas Uber. Chauffeur de maître, c'est quelle différence ?
De base, c'était la grande remise. C'était bien avant qu'Uber arrive sur le marché. C'est la grande remise. C'était un peu des taxis de luxe. Tout ce qui était un peu du corporate, tu vois, la Fashion Week, choses comme ça.
On met c'était plus luxe.
Oui, c'était plus luxe. Après, on était un peu plus que le taxi, tu vois, et plus privé aussi. Et moi, chauffeur de maître, c'est encore différent. Chauffeur de maître, ça veut dire que je suis le chauffeur d'une seule et même personne. Si toi, demain, t'as suffisamment d'argent pour te payer un personnel, et bah, tu te prends un chauffeur avec ta voiture, et c'est ton chauffeur H24.
Ah oui,
moi, c'est genre, chauffeur privé. T'as les chauffeurs de direction, qui sont pour la direction d'une boîte, et chauffeur de grande remise qui bossait pour plein de personnes. T'avais différents chauffeurs.
Toi, c'était quoi comme type de personne, sans dire le nom?
Un homme d'affaires égyptien, très grosse fortune égyptienne, voilà.
D'accord. Et lui, est-ce que t'as des anecdotes de ce boulot? C'est-à-dire, tu passes beaucoup de temps, j'imagine, à attendre.
Ouais.
C'est ça, tu dois attendre quand il est en bas, enfin quand t'es en bas, tu dois.
Ouais, à disposition, c'est lui qui régit un peu ton emploi du temps. Ça veut dire, moi, quand il venait, il habitait pas sur le territoire français, donc j'avais de la chance d'avoir beaucoup de temps libre. Et j'étais quand même.
Et payé quand même?
J'étais quand même payé, j'avais un salaire à l'année pour pouvoir être présent au moment où il vient. Et puis je m'occupais aussi d'entretenir ses biens. Il avait une maison, un appartement ici. Il fallait aussi venir à les entreprises pour des fois réparer, gérer. T'as tout ce qui est.
Tu l'aidais un peu sur d'autres.
Voilà, sur. J'étais pas chauffeur plus que le chauffeur. Après, t'es l'intendant carrément, tu vois. Mais après, lui, c'est lui. Mais j'ai bossé pour plein de boîtes, pour plein de clients différents, voilà, pour plein de personnalités. J'ai fait un peu de tout.
Est-ce que t'as une anecdote sur un ancien employeur qui t'a pas trop respecté ou t'as réussi à te faire respecter d'une manière?
Il y en a beaucoup qui respectaient pas trop. en soi, c'est vrai que t'as en fait, de base, t'es là pour travailler pour lui, t'es payé, etc. T'es pas là pour raconter ta vie. Moi, je suis toujours parti de ce principe-là. On est discret, c'est le travail du chauffeur. On écoute tout ce qu'il dit dans la voiture, mais rien ne ressort de la voiture. C'est un peu, quand tu viens, c'est le prolongement de son bureau ou de son...
Mais de sa vie personnelle.
Tout ce que tu peux entendre, voilà, ça doit rester là. Mais un jour, j'avais une princesse émiratie qui arrivait en vacances ici. Mais j'avais déjà bossé beaucoup avec un prince juste avant pendant 2 mois, non-stop, 60 jours consécutifs, ça fait long. Être présent psychologiquement tous les jours et tout. Je voulais pas forcément la faire, en tout cas, je voulais arrêter. Mais bon, il se retrouve que voilà, je me retrouve à la conduire. J'arrive en bas de son hôtel et elle me fait attendre la première journée, je crois plus de 10 heures sans avoir de nouvelles. J'attends en bas dans la voiture et à chaque fois, je me dis, mais c'est pas possible. J'appelle mon employeur, je dis, mais elle sait que je suis là ou pas? Elle sait qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça bouge pas? Mais attends, elle va t'appeler. Première journée comme ça, deuxième journée pareil. Je rentre au bout de je sais pas combien de temps chez moi.
Tu te dis, je sers à rien.
Voilà, et un jour, je me dis, non, attends, elle sort pas. Et ouais, donc, elle me fait venir à 2h de l'après-midi et elle sort à minuit. De là, on part carrément pour toute la night, en fait. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, elle était en décalé par rapport à nous. Elle vivait la nuit, ça veut dire qu'elle dormait la journée. Et donc, on rentre le soir, le matin, à 8h, 9h du matin. Et je me dis, je vais pas revenir à 14h, tu vois. Je vais revenir le soir à 20h. Donc, moi, je reste chez moi, je dors et tout. Et d'un seul coup, je reçois un appel. Claude, t'es où? J'étais dans mon lit, fermé, couverture. Non, mais laisse tomber, j'ai couru comme ça. M'a fait faire des galères de dingue. Toute la soirée, elle m'a fait attendre. Et un jour, j'en ai eu marre. Elle me disait pas quand aller manger, quand je pouvais aller pisser, ni rien. J'avais aucune information.
Comment tu vas pisser si tu l'attends?
C'est ça qui est pénible. Tu demandes pas. C'est à toi aussi de gérer, de voir le timing. Mais vu que je la voyais jamais. J'avais aucune indication de ce que je pouvais faire et pas faire.
Et quand t'as envie de pisser, t'attends dans la voiture?
T'attends, tu rentres vite dans l'hôtel, tu fais pipi, tu redes pas, tu ressors, mais de toute façon,
c'est comme par hasard le moment.
C'est le comble du chauffeur, de toute façon. Tu peux attendre 3 heures, tu vas dire, attends, je vais faire pipi. Ah, mais non, mais là, il est censé arriver, il va arriver, 5 minutes. Un quart d'heure, une demi-heure. Putain, j'ai eu le temps d'y aller, je vais y aller. Ah non, il va descendre. Il s'est passé encore 1h30 de temps que t'as dit tout ça, et tu dis, allez, j'y vais, et au moment où tu pisses, on t'appelle. Hein, t'es où? Tu vois, ce truc, c'est horrible. Ça, c'est le comble, ça t'arrive tout le temps. Ça. C'est pour ça que c'est horrible, en fait, ce métier.
Ah, quel enfer.
Les gens de podcast.
Et comment tu t'es fait respecter?
Cette dame-là, à un moment donné, j'ai craqué. Ça a été 4 jours comme ça, faire des heures et des heures et des heures sans savoir quoi faire. J'ai écrit un papier un soir, j'ai demandé au réceptionniste quelle était sa chambre, et en fait, je lui ai glissé sous la porte un papier. J'ai écrit, je suis votre chauffeur, je suis pas votre ennemi, je suis pas là pour connaître votre vie, je veux simplement savoir à quelle heure je peux manger, aller aux toilettes et aller dormir.
Tu marches en anglais?
Voilà, en anglais. Et je vais pour le glisser sous la porte, et au moment où je glisse sous la porte, elle ouvre sa porte. Je lui dis, bah, ça tombe bien, j'ai quelque chose pour vous, c'est un papier, elle est là. Et depuis ce jour-là.
Et tu peux être gêné là-dedans, t'as
une... J'étais gêné, mais en même temps, je me suis dit, au moins, ça y est, j'étais énervé. Au moment où t'arrives, faut mettre le papier, ça y est, t'en peux plus. C'est-à-dire, c'est ça où je rentre chez moi, j'arrête la mission, tu vois, j'arrête de travailler. Et donc depuis ce jour-là, où elle a vu comme ça le papier, et je pense qu'elle m'a pris en estime.
Au sérieux.
Et depuis ce jour-là, elle me disait, voilà, Claude, bah, mange à l'hôtel, mets sur ma table, mets sur ma note, mets sur ma chambre, voilà, viens à telle heure, repars à telle heure. Elle m'appelait tout le temps, tu vois. Et à la fin, j'ai eu un bon pourboire quand elle est partie. Donc, tu vois, comme
quoi. T'as respecté.
Mais j'ai fait le démarche. Et c'est pas, franchement, je suis forcé à le faire, tu vois. C'est vraiment que j'étais au bout, parce que sinon, j'aurais pu passer la semaine comme ça, rien dire.
Putain, c'est fou. Est-ce que t'as déjà eu un avantage à être chauffeur de maître? Est-ce que t'as déjà eu accès à, j'en sais rien, des voitures, des chambres,
ouais,
tu sais,
ben oui.
Gratuites
pendant ben ça, quelques... Oui, je conduisais un prince, c'était la quatrième femme du roi Abdallah Ben Abdelaziz Al Saoud. Donc maintenant, c'est plus lui, sa famille qui est roi, mais je te parle de ça, d'il y a 10 ans, c'était lui qui était le roi. Il avait 4 femmes. Et moi, je travaillais pour sa 4e femme. Quand elle venait en France, elle avait 3 enfants, et moi, je travaillais pour son premier garçon. Donc lui, il avait le titre potentiel un jour de pouvoir s'asseoir sur le trône de l'Arabie Saoudite. Donc c'était un gros titre. Et était vachement respecté par les Saoudiens, etc., et vachement connu. Et donc, lui, il avait 7 ans. Je l'ai commencé, il avait 9 ans quand j'ai commencé à le conduire. J'ai jusqu'à ses 19 ans, je l'ai conduit tous les étés. Et je partais avec lui en vacances. Je suis même allé en Arabie Saoudite, à Jeddah, en vacances chez lui, etc. Donc, ouais, j'avais un bon rapport avec lui.
Bien.
Mais lui, il changeait de voiture tout le temps. Ça veut dire que moi, j'aimais bien faire ça, mais c'était pénible aussi parce que toutes les semaines, on changeait de voiture. Moi, j'ai eu toutes les voitures qui sont sorties de l'époque, qui sont arrivées. Je sais, c'était les premiers Range Rover Supercharge, les premiers Porsche, Cayenne Porsche. J'ai eu les Ferrari GTB. Dans les plus grands hôtels, j'ai dormi dans les plus grands hôtels avec lui à Cannes, au Martinez. Enfin, j'ai eu vraiment. Voilà, on allait en boîte, on était bien reçus et tout, ça va quoi. Tu vois, on a.
Et ils te laissaient des chambres parfois, t'avais accès
à... Ouais, Martinez, en vacances pendant une semaine l'été, il repartait lui en train ou en avion parce que c'était plus court, et nous, il fallait qu'on remonte avec les voitures, donc généralement, on restait la nuit en plus, on repartait le lendemain et là, on profitait des suites.
Ah ouais, t'as dû
kiffer
quand même.
Ouais, on a bien kiffé. Non, franchement, j'ai eu accès, franchement, c'est vrai, à des voitures que j'aurais jamais conduites, mais j'ai une belle anecdote à te donner, quand j'ai vraiment à mes tout débuts. J'étais jeune chauffeur. Un jour, on me dit, il y a une princesse qui arrive, une émiratie qui arrive, va la chercher à l'aéroport du Bourget.
Il y a un jet privé, Bourget.
Voilà, jet privé, donc déjà, ça te donne un certain standing au niveau des gens qui arrivent là-bas et tout. Elle vient une semaine, tu vas la conduire. Et moi, je venais d'arriver sur le marché, entre guillemets, du chauffeur, tu vois. Je ne connaissais pas encore, il n'y avait pas de GPS, on n'avait pas de téléphone portable à l'époque, comme on a aujourd'hui, avec toutes les facilités Waze et tout qu'il peut y avoir. J'avais mon plan de Paris, comme ça, petit format et grand format, où je mettais des coups de stabilo. Je mettais des coups de stabilo sur les grands axes pour savoir là à là où est-ce qu'elle est. Je notais, j'entourais les hôtels avec des croix, je les notais, les palaces et tout, et les grands restaurants. Je me préparais comme ça, tu vois, à travailler. Et c'est comme ça que j'ai appris le métier. Et quand elle est arrivée, je me souviens, j'avais un pote qui était chauffeur, lui, depuis des années, il connaissait très bien Paris. Et j'avais dit à Sylvain, il s'appelait Sylvain, je dis, Sylvain, tu sais quoi, on va jouer à sécurité, cette princesse-là, je la connais pas, moi, j'ai 23 ans, la nana va voir arriver un gamin de 23 ans au volant, tu vois, là, ça se trouve, tu vois, je vais... Moi, j'avais ce syndrome aussi de vouloir tout faire parfaitement, tu vois, et de me justifier à chaque fois, je voulais pas qu'on ait de trucs à me redire. Et donc, je lui dis, écoute, prends ma voiture. Mets-toi dans Paris, à un endroit, tu travailles pas, et tu vas me faire le poisson pilote toute la journée, tu vois, sur les adresses et tout. Il me dit, OK. Je me souviens, elle arrive au Bourget, je mets ses affaires dans le coffre, et quand je mets ses affaires dans le coffre, je l'appelle avec le Bluetooth, le fil comme ça, là, je l'appelle, et je dis, reste en ligne, et t'écoutes ce que je dis, et quand je dis de l'adresse, tu me dis et tu me guides. Il me dit, OK. Je remonte dans la voiture, donc j'ai l'oreille comme ça. Elle me dit, Galerie Vivienne, chez à l'époque, t'avais Gauthier qui était là-bas. Elle me dit Galerie Vivienne. Alors, j'avais jamais entendu parler de ce nom-là. Tu vois, cette rue-là, je la connaissais pas du tout. Je suis dans la merde. Et là, je lui dis Galerie Vivienne. Et elle me dit oui, Galerie Vivienne. Et donc là, il entend, il me dit c'est bon, Galerie Vivienne, je t'attendrai à la Madeleine en warning. La Madeleine, de là jusqu'à la Madeleine, je sais y aller, pas de problème. OK. Là, je raccroche, tac, je vais jusqu'à la Madeleine. À la Madeleine, j'arrive, je descends là-bas, je vois ma voiture, elle était Bordeaux, j'avais une BM Bordeaux, je la vois au loin avec le warning, je fais des appels de phare, tac, 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 c'est moi qui arrive. Et là, hop, il prend la route et je le suis comme ça.
Donc ça marche, quoi.
Et ça marche, il m'emmène jusqu'à on reprend la rue de la banque, je tourne avec lui, et là, il fait pas attention, il y a un passage clouté, j'ai une dame qui passe avec un berceau, moi je m'arrête, lui il avance, il tourne à droite, il voit pas que je suis pas derrière lui, tu vois. Moi je m'arrête là comme ça, j'ai le son qui commence à monter, j'arrive au bout, je tourne à droite, et je vois plus, tu vois, je le vois plus quand je tourne à droite, je vois pas ma voiture, et en fait je regarde, et je vois à gauche, je vois là-haut, rue Vivienne. me dis, c'est bon, pas de problème. Je tourne là, mais je suis comme un con, je tourne. C'est le début de la rue Vivienne. En fait, c'est juste le 1 et le 2. Et en fait, tout le reste, c'est l'autre côté. Je rentre là-dedans, je dis, oh putain, il n'y a pas de passer, c'est l'autre côté. Je fais un demi-tour comme ça, je recule, je repars et j'arrive comme ça, je m'arrête, elle descend. Pendant une semaine, il m'a fait le poisson pilote comme ça à l'oreillette. Et une fois, un soir, elle monte dans la voiture avec trois copines à elle. Un brouhaha pas possible dans la caisse, ça chatait, ça gueule, etc. Je suis comme ça, il n'entend pas ce que je dis. Elle me dit, je veux aller au restaurant. C'était le restaurant qui était place du Faubourg Saint-Honoré. Je dis, ok, place du Faubourg Saint-Honoré. Il me dit, j'entends pas, tu vois, j'essaie de le redire, etc. Elle me dit, Claude, vous êtes au téléphone? Et moi, je panique, j'éteins le truc, tu vois, je veux dire. Je coupe le truc comme ça. Et là, quand je coupe le truc, je me dis, putain, mais je suis con, je viens de couper le seul personne qui peut me dire où est l'adresse. Et là, je suis comme un con, je dis, non, je raccroche comme ça. Et là, je me dis, putain, qu'est-ce que je vais faire et tout. Il y avait une dana à droite là, c'est tout derrière, elle gueulait et tout. Je dis, bon, la place du marché Saint-Honoré, je vais prendre la rue Saint-Honoré, il faut que je regarde, je vais voir ce que je trouve, tu vois. Je prends le marché, et là, je prends la rue Saint-Honoré. Comme quoi, je mets ma bonne étoile, ma mère là-haut, tu vois, parce que je rentre à la rue Saint-Honoré, j'avance d'un seul coup, je vois place du marché Saint-Honoré, je rentre et je vois le restaurant, je la dépose devant, tu vois.
Coup de bol.
Mais je me suis toujours bien sorti, jusqu'au jour où j'ai eu suffisamment d'expérience pour me dire, je m'en fiche, quoi. En vrai, si je connais pas l'adresse, je peux pas tout connaître, je prends le bouquin et je l'ouvre. Mais dans mes débuts, c'était pour moi inconcevable de faire ça.
Ah ouais, de faillir.
Ouais, c'est inconscient.
L'échec, t'as du mal avec l'échec?
Ouais, j'ai pas du mal avec l'échec. J'aime bien que les choses soient bien faites. J'aime bien que les gens soient contents, soient satisfaits du taf que je peux se donner, que je peux donner. Donc, pour moi, au début, c'était dur. Hein.
Après, t'as eu un petit passage. Alors ça, je l'ai appris aussi à l'armée, assez rapidement, en 2001. T'avais 19 ans. Et tu t'es engagé, enfin, t'étais volontaire pour t'engager à l'armée de l'air, c'est ça? Ça n'a pas duré très longtemps comme expérience?
Ouais, non.
Ça même pas un an, je crois.
Ouais, hein. j'ai fait mes classes et plus de mois sur base. Après, j'ai arrêté parce que ça ne correspondait pas à l'idée que je m'en étais faite.
Ouais, tu voulais faire des missions, de l'opération extérieure?
Évidemment, moi j'étais jeune, je voulais de l'action, je voulais voyager, je voulais faire des choses. Et c'était aussi un moyen pour moi de partir de chez moi. Mais ça, c'était juste un peu avant que je devienne chauffeur.
Oui, c'est ça.
Et c'était un moyen pour moi aussi de partir du quartier, de faire autre chose. Et j'ai toujours aimé la rigueur, j'ai toujours aimé aussi voilà, que ce soit assez carré les choses, dirigées, tu vois. C'est des trucs que j'aime bien. Et l'armée, pour moi, ça me correspondait aussi. Voilà, il y avait du sport, de l'action. Et un jour, je passe, je m'inscris, je rentre dans l'armée de l'air. Je voulais faire les commandos parachutistes, mais ça venait de passer professionnel l'armée. Donc, ils étaient en restructuration, c'était pas aussi simple que ça. Donc, ça a mis beaucoup de temps. Et au final, quand je suis revenu sur base, ce qu'ils m'avaient dit dans les bureaux à l'inscription ne correspondait plus. Et il a fallu que j'attende encore très longtemps. Et moi, j'étais impatient à cette époque-là, il me fallait tout de suite. Et donc, j'ai décidé de repartir dans le civil.
Et comment tu as connu Koh-Lanta?
Eh ben, j'ai connu Koh-Lanta, franchement, par le plus grand des hasards. On venait d'avoir les premières voitures, les Mercedes équipées de téléviseurs à l'intérieur.
Ok, ah ouais, c'était vraiment les luxe. Hein.
Ouais, c'était le début.
Moi, j'ai jamais vu une télé dans une voiture.
C'était les classes S de l'époque, elles venaient d'arriver avec les télés. Donc, il y avait la TNT, il y avait une vraie antenne et tout. Ouais, il y avait une antenne et tout. C'était les premiers, les tout débuts. Donc, j'avais une voiture comme ça, les clients étaient au restaurant, je commençais à regarder la télé, je tombe sur TF1, sur cette émission. Elle était déjà prise en cours, c'était en 2009.
Un an avant mon arrivée,
bon, c'était le milieu du jeu, donc il n'y avait pas trop de personnages, plus facile de comprendre un peu ce qui se passait. Et je me prends au jeu de regarder, ça me plaît assez, tu vois. La semaine d'après, je re-regarde. Et puis après, je pars en vacances chez ma sœur qui n'est pas du tout quelqu'un qui regarde la télé. Ouais, elle n'a pas ces trucs-là, la télé, elle a toujours été très loin de tout ça. Et je lui dis, non, attends, ça fait deux semaines que je regarde une émission qui vient d'arriver, le concept il est trop drôle, ils sont sur une île, ils sont en galère, il y a des jeux, il se passe plein de trucs et tout, ils veulent tous s'éliminer, il faut que je regarde. Donc je regarde avec elle, et là... Donc là, je suis en train, forcément, je commente et tout. Et elle me dit, bah, t'as qu'à la faire, cette émission, tu vois. Et bah, là, je dis, écoute, fais-moi la lettre. Il y a une lettre de motivation, vas-y.
C'est elle qui t'a écrit la lettre de
motivation. Ouais, c'est toi qui me connais le mieux. Bah, en fait,
pourquoi tu l'as pas écrit toi?
Bah, parce que ma sœur me connaissait le mieux. Et qui mieux que elle pour parler de moi? Moi, je vais pas me mettre en avant dans la lettre, je veux faire ça. Donc, je lui dis, écoute, fais-le, tourne-le, prends mon caractère, tu me connais bien, prends ma personne, retrace un peu ma vie, mon parcours, etc. Synthétise tout ça dedans et fais quelque chose. Et la lettre qu'elle a faite, franchement, en vrai, elle était nickel. C'était moi. Elle a tourné un peu à la rigolade et tout, parce que j'ai toujours pris tout à la légère. Et c'est passé.
Donc, t'envoies la lettre?
J'envoie la lettre.
Une réponse directe?
Une réponse, un appel déjà, un premier appel à l'époque en 2010, hein, ça se passe peut-être plus comme ça maintenant, un premier appel pour juste prendre la température.
Ouais, voir si tu parles bien.
Voilà, élocution et tout. Et là, ça se passe bien, il me rappelle, il me convoque pour voir en physique Facecam. Et là, Facecam, ils reprennent un peu l'intitulé de ta carte, de ton dossier que tu as envoyé et de ton parcours. Bon échange, tout se passe bien, je leur claque une bise en partant, etc. Et je rentrais moi dans la case des trentenaires célibataires sportifs à l'époque. Et donc je passe après les tests physiques. Et puis à la fin, je pars en Thaïlande parce que voilà, j'avais prévu mes vacances. Et pas de nouvelles, rien. Je regarde en Thaïlande, je dis tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé mes mails. Je
parce qu'ils t'avaient dit on va vous appeler, machin.
Mais en fait, ils disent quoi, si t'es pris, on t'appelle, si t'es pas pris, on t'appelle pas, grosso modo. Mais je n'allais pas attendre en France que potentiellement
de pas
un appel.
En vacances, ouais,
et j'ai dit écoutez, moi je pars. Et
si vous voilà, voulez, je reviens.
Voilà, mais donc je pars. C'est vrai que ça faisait une semaine que j'étais sur en Thaïlande. T'as pas accès là-bas si facilement qu'à Paris à Internet. Et je dis tiens, je vais aller dans un cyber pour regarder mes mails. Et là, je vois le mail Claude, t'es sélectionné pour Koh-Lanta. Si tu réponds pas le mail, ça fait deux jours qu'on essaie de te joindre. Si tu réponds pas au mail, on prendra quelqu'un d'autre. Bon, là, je dis, oh, putain, c'était pour moi, c'était le feu, tu vois. J'étais avec mon pote, j'ai dit, écoute, il reste encore 15 jours, j'ai courte, il faut que je reprenne, j'envoie un mail, j'ai courté, je suis rentré à Paris et même pas 10 jours après, je partais au Vietnam.
Putain, petit aparté, t'étais en Thaïlande, est-ce qu'il t'est arrivé une galère de voyage en Thaïlande? Il arrive toujours des galères.
Mais la Thaïlande, c'est mon pays préféré, c'est le pays du sourire, c'est le pays de la facilité, mais c'est aussi le pays
du danger.
Où un peu, ouais, voilà, on n'a pas les mêmes normes de sécurité, j'ai envie de dire, entre eux et nous. Et c'est vrai que bah, la dernière fois que je suis en Thaïlande, c'était avec ma femme et des amis, il y avait Valentin Dor, un pote que j'ai rencontré justement en 2010. Lors de mon Koh-Lanta, qui est devenu un ami, il était à l'époque avec Catherine Apachette, ils sont partis en vacances avec nous, on était tout un groupe en vacances, et c'était plutôt sympa et cool. Et bon, moi j'étais celui qui connaissait le mieux la Thaïlande, les autres n'y avaient jamais été. Donc je leur ai dit, écoutez, c'est simple, on va se faire le Kopipi au top du top. Voilà, on était sur Koh Samui, voilà, Kopipi, c'est l'image qu'on a tous, si vous l'avez vu, le film La Plage avec DiCaprio, où il arrive, la Maya Bay, magnifique,
la
comme ça.
La carte postale, quoi.
Carte postale, et ça c'est. Et
d'ailleurs, c'est pas du tout comme ça en vrai.
Et d'ailleurs, ce film-là.
C'est un parking à bateau maintenant, il y a des bateaux.
Là, je l'ai vu la veille de partir à Koh-Lanta. Et c'était un truc de ouf parce que c'était les plages paradisiaques que je voulais voir. Aujourd'hui, on va faire ça, vous inquiétez pas, on va pas prendre le bateau 10 balles où on est 200 dessus, on va prendre un bateau privé, ça va nous coûter un peu plus cher, mais au moins en une heure on y est, ça va être rapide, on a des fruits, tout, vous allez voir cocktail, c'est impeccable, vous pouvez faire du snorkeling, tout le monde est ravi. On arrive sur place, c'est le matin très tôt, il fait gris, il fait pas beau, il pleut un peu. Le capitaine nous dit, non, mais on va repousser, on va pas faire ça aujourd'hui, il fait pas beau, c'est pas top. Et c'est... Tout le monde commence à faire la tronche, mais tout le monde insiste pour quand même, ouais, on peut quand même y aller, nanana. Là-bas, si t'insistes un peu en Thaïlande, t'as vu,
tu peux y aller.
C'est faisable. Pas de problème.
Tu m'en dis une deuxième fois et tu y vas.
Tu vois, on y va. Donc, on embarque et là, c'était dur parce que là, on prenait les vagues de face, des grosses vagues. Le bateau tapait, les filles commençaient toutes à faire la gueule. Je laissais ça de couchage. Nous, on était debout avec Valentin, on se regardait. Au début, on rigolait, tu vois, on trouvait ça sympa, ça tapait un peu et tout. Mais quand on a vu qu'à chaque vague, il y avait la mère de Catherine qui était aussi la pauvre, elle prenait un seau d'eau à chaque fois dans le visage et tout. Moi, je pense que c'était horrible, les filles à gueuler. Et le capitaine, unijambiste, il avait une jambe de bois, il me regarde, il me dit « bateau, bateau, bateau !» Moi, je comprenais pas, il rigolait et tout, tu vois, je dis « ah, bateau et tout !» Et après, c'est là que je réalise, quand je vois qu'il y a qu'un bateau, qu'en fait, on n'aurait jamais dû être sur l'eau, en fait, c'est super dangereux.
Ah oui, il y a personne qui est parti en mer.
Il y a personne qui partait en mer, personne ne voulait prendre le risque, c'était trop de remous, une mini-tempête et tout.
Ouais, j'ai vu une vidéo, là, justement, de touristes qui ont insisté un peu, t'as pas vu cette vidéo en Thaïlande, là, il y a un mois, ils partent en mer, il y a une vague, le bateau explose. Vraiment, ils se cassent en trois morceaux, ils se retrouvent tous dans l'eau et tout.
Mais c'est ça, on n'a pas profité. La salade de fou, ils l'ont même pas sorti. Elle aurait fini dans l'eau. Il n'y a rien. Après, ils m'ont tous tapé, ils m'ont tous dit, ouais, tu nous as vendu ta salade de fou. Je dis, ouais, mais bon, vous n'êtes pas beau, vous avez insisté pour y aller. C'est pas... Mais la Thaïlande, ils m'ont arrivé des belles.
La Thaïlande, c'est vraiment exceptionnel, mais ça peut être très dangereux très vite, en fait. Ouais, parce que disait cette gecko quand il était venu, il habitait là-bas. Donc là, t'es prêt à Koh Lanta. C'était au Vietnam, hein, c'est ça, la première saison.
Magnifique. Un pays communiste qui n'était pas forcément trop ouvert au monde de la télévision, etc. Je pense que c'était même la première fois qu'ils autorisaient une équipe de tournage étrangère à venir sur le territoire.
Ouais.
Pour faire ça, on était dans des anciennes îles prisonnières de Kondo Dao, dans le sud du Vietnam. Donc franchement assez vierge, assez isolé, hormis franchement au très loin, tu vois, des pêcheurs des fois, mais des gros bateaux de pêche, mais très très loin le soir, et ils pêchent à la lampe pour pouvoir prendre des calamars.
Exactement.
Mais sinon, ouais, c'était magnifique, super souvenir.
Et donc Koh Lanta, ça ressemble à ce que tu imaginais, ou c'est finalement
totalement
plus difficile?
Totalement. Moi, je suis content d'y être parce que tu peux réaliser un rêve de gosse, tu veux, de partir un peu à l'aventure. Moi, j'ai toujours aimé ces trucs de pirates, de bateaux, d'îles isolées, échouées, etc. De vivre un peu à la Robinson, tout ça. J'ai toujours adoré cet univers. Et là, en fait, on te permet de le vivre en totale sécurité. Donc j'arrive, moi je suis super content. En plus, on est équipe de garçons contre équipe de filles, on s'entend bien, tout roule, on fait des cabanes, on cherche.
Ouais, nickel, t'as des médecins, tu dis au cas où il m'arrive une vraie galère, franchement, je suis pas non plus en danger.
Franchement, exactement, c'est ça. Et, mais
c'est l'occasion de vivre un truc.
C'est vrai que 40 jours, plus les jours avancent, plus ça devient dur, plus ça devient difficile. On n'avait pas de cocoterie, on n'avait vraiment rien à manger, c'était compliqué. Je suis rentré.
C'est vraiment comme ça? Est-ce que c'est vraiment comme à la télé? Écoute, parce que c'est pas très clair à chaque fois dans les émissions, on sait pas si c'est un peu fake.
Non, franchement, il n'y a rien, qui est fake. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vrai qu'il y a eu deux. Il y a vraiment une scission entre les 10 dernières années et les anciens Koh-Lanta. Les anciens Koh-Lanta, c'est vrai qu'ils étaient peut-être un peu plus purs, parce que moins cadrés, moins, plus, on connaissait moins les trucs aussi, t'avais moins de fans qui venaient, donc t'avais plus de, tu vois, c'était plus de l'aventure aujourd'hui. Les gens qui arrivent sur Koh-Lanta, la plupart, ce sont des fans de l'émission, ils connaissent tout par cœur, tu vois. Tu perds un peu en authenticité, sans doute, mais c'est vrai que en 2010, c'était la découverte.
C'était les premières saisons.
C'était dur. Je suis rentré à 73 kilos, je suis sorti à 58. Il n'y avait pas de coco pour manger, il n'y avait rien. Aujourd'hui, tu vois, avec les petits incidents qu'il y a eu, les gros incidents même qu'il y a eu dans Koh-Lanta, avec le décès en 2013, la production maintenant fait vachement attention à mettre, par exemple, toujours de la noix de coco, entre guillemets, à volonté sur les îles. Parce que c'est le fruit que tu peux manger et que tu peux boire.
Et boire en même temps.
Et tout le temps. Donc, en fait, ça limite. Ça, on l'avait pas, nous, en 2017. Moi, j'ai des cailloux, c'était dur, ça, franchement, c'était très, très dur.
58, tu faisais, tu dis, t'as perdu 15 kilos en un mois.
À l'hôtel, je me suis vu, avant de partir en France, à l'hôtel, dans le miroir, je me suis regardé, je me suis fait peur. C'est comme si j'étais un papy de 90 ans, plus de muscles, rien, comme ça, tout fripé. Non, c'était dur. Psychologiquement, c'était dur.
Et est-ce que quand t'arrives au supermarché, que t'as pas mangé pendant 30 jours, est-ce que tu vois autant de produits à bouffer, est-ce que t'as beaucoup mangé?
C'est comme un magasin de jouets pour les gamins, tu sais, c'est Noël, c'est ce que je veux dire. C'est ça qui est impressionnant, c'est que moi j'habitais dans un petit studio, j'avais un tout petit frigo, les petits frigos tu vois, d'appoint, c'est pas le truc où tu vas mettre 300 litres, tu vois ce que je veux dire, dedans, il n'y a pas 300 litres, non. Et en fait, je suis parti au supermarché et c'était mon kiff. Je suis resté, je pense, plus de 3 heures dans le supermarché avec un caddie, qui fait deux fois la taille de mon frigo, et je faisais chaque rayon, même les rayons les plus inutiles où j'étais jamais allé, juste pour regarder, pour me faire du kiff. Et je prenais les trucs qui étaient juste parce que quand je le voyais, je dis, ah ouais, ça doit être bon, ça je le prends, tu vois, et j'ai rempli comme ça mon frigo, parce que ouais, la privation, c'est quelque chose que tu peux pas imaginer. C'est la première fois, c'était une première expérience pour moi. Mon cerveau, j'explique un peu dans mon livre et tout, tu vois, il n'était pas coutumier de ça. Au bout de certains, vers la fin, 36e jour, je me demandais pourquoi j'étais là. Psychologiquement, c'était dur. Ouais, je me voyais maigrir. Moi, je pesais quasiment le kilo de ma mère quand elle est décédée, tu vois. Et intrinsèquement parlant, ma mère, moi, elle finissait par une cure de raisin sur la faim. Et je me disais, mais en fait, je suis en train, moi, manger, c'est la santé. Et là, en fait, je suis en train de rejoindre ma mère parce que je ne mange plus, je vais mourir, tu vois, je veux dire. Et donc, c'était ce rapport-là qui était difficile avec moi, les gens l'ont pas très bien compris, mais il était lié à ça. Après, psychologiquement, quand tu le fais une deuxième fois, troisième fois, ça y est, t'as cette assise de l'avoir vécu et de l'avoir dépassé, donc c'est un confort psychologique que tu peux avoir en plus, et tu sais que c'est faisable. Mais c'est vrai que quand tu sors, faut pas me priver de quoi que ce soit. J'ai envie de me faire un kiff pendant une semaine. Ça veut dire que même le médecin, quand il te dit, Claude, il faut y aller doucement dans les premiers temps pour l'estomac, etc. Non. Tu me laisses.
C'est comme quoi
tu fais. Je vais me régler tout seul. Mais une semaine, c'est. J'ai des trucs dans les poches de partout. Tout. Aujourd'hui, moins quand je reviens parce que je dis, on perd un peu moins maintenant aussi. On est plus aguerri.
Avec la noix de coco et tout ça.
Donc, ça, on perd un peu moins. Moi, la noix de coco, là, sur les dernières fois, j'en avais H24 dans les poches. J'en mangeais tout le temps. Elle m'écœure pas, tu vois. Donc, tu perds moins, forcément.
Légende podcast.
On comprend un peu mieux le personnage. Je vous mets le lien, comme je vous disais tout à l'heure, cliquable pour prendre le livre, si vous voulez, de Claude, qui s'appelle « Zéro limite à tes rêves » chez Marabout. Voilà, je vous mets le lien cliquable si vous allez chercher. Justement, on comprend un peu mieux l'envie, la persévérance, le fait que t'es manqué, en fait, entre guillemets. Il y en a qui manquent dans la vraie vie. Toi, c'est pendant une émission de télé, donc c'est un laps court. Et déjà, tu dis que c'est très, très difficile. Et ça va être de comprendre aussi, j'imagine, des trucs sur soi-même quand t'es vraiment en train de t'amaigrir. Tu vois ce que je veux dire? C'est difficile. Il y a beaucoup de rumeurs sur Koh-Lanta. C'est une émission qui crée vachement de débats. C'est vrai, hein, tu sais. J'ai noté toutes les rumeurs que je voyais.
D'accord.
Sur Koh-Lanta, je vais te les dire. Est-ce que tu peux me dire si c'est vrai ou si c'est faux?
D'accord.
Sur Internet, il y a toujours des complotistes, mais il y a aussi parfois c'est des complots qui sont vrais. Donc, il faut essayer de faire chacun son petit tri.
D'accord, je vais essayer de te dire les vérités.
Est-ce que les candidats ne peuvent pas se parler avant le début de l'émission? Est-ce que ça, c'est vrai?
C'est faux, hein. Enfin, c'est faux parce que tu l'as vu un peu aussi dans Les Traîtres, tu vois, on a voyagé ensemble, il y a des offs qui n'ont pas été diffusés, et tu t'imagines bien que la production ne peut pas faire voyager chaque candidat dans l'avion séparément pour arriver sur une île, 20 candidats dans 20 avions, enfin c'est impossible.
Il y a toujours des gens que tu connais du métier, donc même si tu n'étais pas à côté dans l'avion, tu
au-delà
vas voir.
De ça, voilà, on voyage par groupe, et généralement ces groupes, c'est ce qui fédère, hein, forcément, et c'est ce qui va régir aussi ton début d'aventure. C'est ton premier contact, c'est ton premier feeling, c'est des gens qui t'ont envie de rattaché inconsciemment, parce que c'est eux qui vont aussi guider ton aventure. Et donc, forcément, souvent, ce que tu peux voir dans Koh-Lanta, avec les alliances qui se créent, souvent, les alliances qui avancent, c'est celles qui se sont faites durant le voyage en amont. Et ça, tu peux rien y faire, ça sera toujours comme ça. Donc dans des retours, c'est pire, parce que dans les retours, tous les jeux, on se connaît tous, plus ou moins, on l'a tous fait, il y a des affinités qui se créent, donc c'est encore plus compliqué de jouer.
Les autres émissions,
quand tu fais un retour dans Koh-Lanta, c'est encore plus difficile, parce que tu ne connais pas. Moi, en 2019, je suis arrivé avec quatre anciens, Théoura, Jessica, Moussa et Sarah, et moi, on était cinq, contre 16 autres personnes que je ne connaissais pas. Donc j'avais moins de scrupules à jouer, j'avais moins de difficultés à prendre des décisions sur les autres, parce que j'avais aucun accroche avec eux, c'était des inconnus pour moi. Donc voilà, c'est plus pareil.
Est-ce qu'après le conseil, tous les candidats dorment sur place ?
Alors ça dépend maintenant d'où tu es, où tu es, dans quel pays, etc. Il y a des régions comme les Fidji où les îles sont très éloignées les unes des autres, où il y a une interdiction aussi de voyager de nuit. Les bateaux n'ont pas le droit de circuler de nuit. Donc si l'île dans laquelle tu es est située très loin du camp de base de la production et du conseil final, quand tu fais le trajet d'une heure ou en bateau, etc., la nuit, on le fait ça généralement la nuit tombée pour amener un peu plus de cérémonial au conseil. Mais quand tu arrives la nuit, si ça dure trop longtemps le conseil, ça dépasse, tu ne peux pas repartir. Donc là, généralement, ils peuvent te fabriquer une espèce de truc en bois, là, comme ça. Là, tu ne dors pas à l'hôtel, tu as un truc en bois comme ça, tu dors sur des planches de bois, et tu dors là, et tu repars le lendemain matin très tôt en bateau sur tes îles. Sur certaines émissions où c'est proche, au Vietnam, on rentrait tous les soirs sur le camp, par exemple, tu vois.
Est-ce que les équipes techniques mangent et boivent devant les candidats ? Est-ce que tu as des cadreurs qui mangent une barre de chocolat pendant le film parce qu'il a faim ?
Jamais, ils sont très professionnels. Ils ont
gaffe quand même.
Ils ont pour. Oui, tu t'imagines bien que si tu vois un caméraman en train de se taper un marre, c'est un sujet à s'embrouiller. Si tu veux dire. Non, ils essayent. Tu les vois pas fumer, tu les vois pas, pour ceux qui fument, tu les vois pas boire.
Ouais, pour te donner envie, quoi.
Et si, à la limite, ils ont leur gourde d'eau, mais c'est tout uniquement.
Est-ce que c'est vrai que la production plante de la nourriture près des campements pour faciliter l'aventure ?
Ah oui, forcément, parce que tu as une zone délimitée. Le but, c'est pas non plus que tu sois dans un champ de manioc, sinon c'est très compliqué. Donc la zone dans laquelle on est délimité, elle est observée, elle est travaillée, elle est aussi nettoyée.
Oui, il y
en a un peu, mais pas trop. Donc c'est pour ça qu'en fait, tu dois aller chercher régulièrement chaque jour, parce que eux, en fonction de l'évolution du jeu, des fatigues et des gens, si le médecin il dit non mais là attention ils sont trop fatigués etc, ils mangent pas assez, hop, ils vont rajouter deux pieds de manioc quelque part. Quand tu les vois déterrer, généralement on les déterre très facilement parce que...
Ça a été mis avant. Non, ça c'est intéressant. Est-ce qu'il existe des doublures pour jouer certains plans à la place des candidats?
Je pense que ça peut arriver.
Les poteaux, ça dure des heures.
Mais ça peut arriver, je pense, quand on est parti, s'il y a besoin de refaire un plan drone, par exemple, pour le montage du générique.
Et que nous n'est plus là,
ils vont prendre un t-shirt vert de trois personnes, et puis au loin, peut-être ce sera des gens, mais ça, uniquement ça. Sinon, le reste du temps, on n'est jamais doublé.
Pas sur des épreuves.
Non, jamais sur des épreuves.
Est-ce que c'est vrai que j'ai lu ça, ça m'a fait marrer. La production fournirait des préservatifs aux candidats.
Et en 2010, il y en avait dans les malles, des préservatifs. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs il y avait des préservatifs.
C'est simple à comprendre.
C'est pas l'endroit vraiment où t'as le plus envie de...
Parce que t'es tout crade.
Parce que la libido, elle est coupée, c'est pas ta priorité. Tu sais, le corps, il est bien fait, le cerveau, il est programmé, il sait, voilà. Ton cerveau, il va dire, voilà, c'est quoi les organes les plus importants ? C'est le cœur, le cerveau. Toute mon énergie, je le concentre à balancer du sang dans le cerveau, etc. Et toi, toute ton énergie, en fait, à chaque fois que tu avances, ton corps, il s'adapte.
T'es focus.
Et oui, alors au début, tu vas peut-être avoir les deux premiers jours, tu es encore en forme, ça va, mais plus tu vas avancer, je peux te dire que plus ta libido, elle va disparaître.
Ah oui ?
Bah oui, forcément. C'est ton dernier souci de te reproduire. Faut déjà survivre.
Ouais, t'as déjà envie de bouffer, de boire, quoi.
Ouais.
Ah, c'est intéressant.
Mais après, je pense que voilà, il y a des rapprochements affectifs, il y en a eu dans le Koh-Lanta, c'est connu, il y en a eu, mais ça se fait sûrement.
T'as jamais vu personne, sans donner de nom, je m'en fous, mais. T'as jamais vu ça, non ?
Non, non. Après, la maison des candidats, moi, j'y suis arrivé tard à chaque fois dans les derniers, parce qu'à chaque fois, j'ai eu la chance d'aller loin. Donc, j'ai pas pu profiter.
Ah, c'est là où ça se passe,
plutôt. Ouais, généralement, c'est les derniers éliminés qui font partie du conseil final, généralement après la réunification. Donc, si toi, tu sors juste après la réunification, tu peux passer genre 15 jours ou 10 jours en maison des candidats, en attendant que tout le monde soit éliminé, la fin du jeu.
Ouais.
Toi, si tu restes 10 jours, bah, au bout de 3-4 jours où t'as bien repris des forces, généralement, là, t'as envie peut-être t'amuser.
De te reproduire. Ouais, t'as plus envie de.
Alors, si des rapprochements, il y a, et c'est là que ça se fait, ou alors bien après, quand chacun retrouve son chez-soi.
Les candidats ne sont pas payés pour faire l'émission. Il y en a qui disent que c'est juste.
Et bah, depuis 2012, si. C'est parce qu'il y a eu beaucoup de candidats qui ont eu l'amertume de leur aventure et qui ont voulu récupérer de l'argent par différents moyens. Et je pense que voilà. Il y a besoin d'avoir une classification parce que c'est vrai que c'est long, c'est tourné tous les jours. Donc maintenant, il y a un jour de repos chaque semaine où on est censé pas être filmé, où il ne se passe rien. D'ailleurs, c'est très long pour nous. C'est pour les caméramans, c'est pour tout le monde. Comme ça, ça respecte le code du travail.
Ah oui, oui.
Donc
oui.
Toi, forcément, tu es employé aussi. Donc maintenant,
au moins, c'est carré, quoi.
Maintenant, tu as un contrat de travail avec un salaire. Mais je veux dire, tout ça, c'est pas grand-chose, mais c'est un minima pour.
Alors, j'ai lu un truc assez étonnant, c'est que la montre que porte Denis Brognard n'est pas réglée. À la vraie heure, pour pas que les candidats sachent l'heure.
C'est vrai, mais j'ai envie de te dire que maintenant, on n'a même plus besoin de sa montre. On sait à peu près où est le soleil, on sait quelle heure il est. Ouais, on est assez maintenant.
Et puis tu te fiches de l'heure.
Aguerri,
en fait,
oui.
Puis, tu te dis, bon, il se couche là, il se lève là.
Ouais, franchement, maintenant, c'est pas le truc qui. Les jours, il y a toujours quelqu'un qui compte les jours. À partir du moment où il est arrivé, il y en a toujours un qui sait quel jour on est. On sait tout, nous, on sait. Je veux dire, maintenant, on arrive même à surprendre la production, dans le sens où quand on arrive sur un retour. On est par rapport au nombre de candidats qu'on est, par rapport au nombre de jours. Alors oui, ils peuvent nous flouter sur la fin si on est quatre.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ou 5 ou 3, tu vois, sur les derniers trucs. Mais grosso modo, on sait qu'il y a un jour confort, un jour immunité, un jour off. Et ensuite, par rapport au nombre de candidats qu'on est, on arrive plus ou moins à savoir comment ça va se dérouler le jeu.
Il y a des jours off quand même. Oui,
ouais, jours off.
Mais du coup, vous ne mangez pas ?
Bah, on fait comme d'hab, ça veut dire on se lève, on nettoie nos affaires, on met du bois, on ramasse des trucs, on cherche un collier, on discute, on va pêcher.
Oui, y a
mais
juste
par contre,
pas
on ne part pas sur le jeu.
Filmé,
on part du jeu et il n'y a pas de scène filmée.
Petite question, est-ce que je demande parfois aux invités s'ils ont des tocs ? Et est-ce que c'était compatible avec Koh-Lanta ? Et je crois que 100% des cerveaux ont des tocs, disaient les médecins. Après, plus ou moins gros, est-ce que tu as un toc un peu marrant ?
Mais alors, moi, je ne le considère pas comme un toc, mais si je devais en citer un, j'aime passer l'aspirateur.
C'est pas un toc, c'est.
Bah ouais, mais je passe tous les jours quand même, donc. je peux même l'attraper une fois qu'il est là, juste pour passer un coup, tu vois. Mais parce que pour moi, l'aspirateur, ouais, je sais pas, j'aime. Déjà, je suis quelqu'un qui. J'aime quand c'est propre, quand c'est clean chez moi, j'aime bien. Je trouve que quand tu rentres dans une pièce, quand elle est rangée, quand elle est aérée, etc., c'est déjà agréable en soi. Et j'ai toujours nettoyé, etc. Mais l'aspirateur, il y a un truc en plus, c'est que t'aspires à saleté. Tu vois, je veux dire, donc c'est l'impression, c'est tu fais place nette. Et c'est un peu ma philosophie de vie. Ça veut dire, je laisse pas tous les petits problèmes, toutes les choses m'embêter chaque jour. Je les aspire, je les dégage, et je pense plus. Tu vois, sont dans le sac, je les jette. Tu vois. Et c'est comme ça que donc je pense que mon top vient de là.
C'est pour qui ton livre ? C'est quoi la cible du livre ? Zéro limite. Déjà. Mets le lien en clic capture sous la vidéo. Je le dis, hein, je remets la.
Ouais, répète-le parce que quand même. Redis-le encore, s'il vous plaît.
Zéro limite à tes rêves. Claude Dartois aux éditions Marabout.
Sur la deuxième, dans la deuxième page, tu vois, je fais un cadeau à mes enfants, Marceau et Andrea, pour leur dire que je les remercie parce que grâce à eux, j'en apprends encore chaque jour sur moi. Et ce livre, c'est un peu aussi pour eux. C'est un petit clin d'œil qu'ils auront de moi avec des photos, un peu de mon parcours et tout. Et c'est bien de. Je le fais pour eux plus que pour. Autre chose. Ouais. En tout cas, voilà, je pense que tu peux piocher 2-3 trucs à gauche, à droite, ça peut être utile. C'est pour tout le monde, j'ai envie de dire pour les jeunes, pour les moins jeunes, tous ceux qui ont envie de se donner confiance, qui ont envie de se relancer un défi, tous ceux qui ont une petite problématique.
Pas que pour les sportifs.
Bah non, pas du tout, non, il est ouvert à tous, c'est bien au contraire. Et je pense même qu'il est plus axé à ceux qui n'ont jamais osé faire les choses.
En parlant de sport, on va y revenir dans 2 secondes, mais dernière rumeur que j'ai vue sur Internet, assez persistante, que la prod manipulerait certaines séquences, c'est-à-dire qu'ils te disent « faut que tu votes pour un tel » ou machin. Est-ce que c'est orienté ou c'est plutôt vraiment libre?
Alors moi, quatre aventures, on m'a jamais dit « il faut que tu votes pour un tel ou un tel ». Enfin, j'imagine pas la production intervenir comme ça et dire à quelqu'un « il faut que tu votes pour un tel ou un tel ». Ou alors, en tout cas,
dans les 13, c'était pas le cas. Moi, c'est ma seule expérience de télé.
Je serais quand même très surpris que ce soit comme ça. Maintenant, la prod ne manipule pas, mais forcément, il faut poser des questions. Les questions, tu l'as vu dans les traîtres, hein, tu poses des questions, tu reprends l'intitulé de la question pour pouvoir répondre à la question, pour que le téléspectateur la comprenne. Cette question-là, peut-être que toi, tu n'aurais jamais abordé le sujet, mais on te la pose. Alors, soit tu dis « je réponds pas à cette question, ça ne m'intéresse pas », soit tu la réponds, soit tu y réponds. Mais en soi, non.
Après, tu vois, dans les traîtres, il y a un petit montage qui peut à des moments,
ah bah, y a
vois,
montage.
Qu'il faut storyteller
tu sais,
pour l'écrire.
Tu sais, moi, Koh-Lanta, c'est pareil. Hein. Koh-Lanta, c'est plus de 700 heures de tournée.
Il y a des choix qui doivent
700 heures, t'as 130 de diffusés. T'as 600 heures de rush que tu ne verras jamais. Donc forcément, tu vas accentuer par rapport... Tu dois raconter une histoire.
Ouais.
Tu vas accentuer, par exemple, un caractère. Moi, on m'a vu en 2010, je criais tout le temps. Enfin, j'ai dû dire une fois, les filles, le riz. On a sorti à toutes les sauces. On m'a mis un peu mon côté un peu autoritaire plus en avant. Ça fait partie du game, en vrai. T'as signé, il faut aussi accepter. C'est le personnage. Ouais. Moi, je trouve que c'est représentatif et ça représente ton aventure. Alors oui, forcément... moi, je passais pas ma vie à gueuler, mais j'ai gueulé. Donc, c'est ce qu'ils ont mis en avant. Bah, voilà. Alors, si les gens ils font pas le, ils ont pas suffisamment de recul pour dire que c'est pas non
un
plus.
Un distinguo entre.
Voilà. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Moi, je dis un jour, ça c'est bénéfique pour toi. Un jour, ça l'est moins. C'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux faire?
J'ai vu que il disait juste dernier truc que j'avais vu aussi, j'ai noté, mais que certains cadreurs savaient où étaient les colliers et puis ils montraient un peu. Tu vois, ils se mettaient juste à côté du collier pour que tu le découvres.
C'est la légende urbaine. La légende. Parce que moi, jamais personne va prendre le risque de dire quelque chose. Non, mais en fait, on se disait quoi? Nous, sur lui, on disait, faut que le collier soit montré à la télé. Pour que le télé soit montré à la télé, il faut que le caméraman il pointe dessus. Ça veut dire que nous, on se dit quoi? On est trois ou quatre, par exemple. On se dit, allez, on va partir chercher le collier. La technique, c'est quoi? Il y a deux équipes, un caméraman, un preneur de son, une journaliste. Ils sont deux équipes comme ça. On est quatre. On part chercher le collier. Chacun prend une direction différente, nord, sud, est, ouest. Si les deux équipes partent avec deux personnes, et toi, tu pars, il n'y a personne avec nous, bah déjà, nous, au sud et est, là, il n'y a personne, il n'y a pas de collier là où on va, ah, parce que sinon, ils seraient avec nous, tu vois.
Donc, viens,
on essaie de déduire comme ça. Après, si t'es en train de chercher, il est avec toi. Si tu vois qu'il est un peu loin de toi, qu'il n'est pas forcément en train de faire attention, ça veut dire que t'es dans une zone, il n'y a rien à foutre. Tu vois, si tu vois que dans une zone, il commence à se rapprocher,
oui, il est vraiment vers tes mains.
Et des fois, ils font des feintes aussi, ils sont malins aussi. Maintenant, ils font des feintes.
Ah,
maintenant. Je pense maintenant, ils font des feintes aussi. On s'est toujours dit, nous, qu'on pourrait jouer en essayant de faire ça. Moi, j'écoute, j'ai jamais trouvé de collier, donc en vrai, c'est que ça fonctionne pas.
Légende podcast.
C'est quoi l'histoire des bananes? Tu m'as parlé de l'affaire des bananes. Qu'est-ce que c'est, cette histoire?
L'histoire des bananes, c'est 2010. On est loin dans l'aventure. Je sais plus à quel jour on est exactement du tournage. On est tous fatigués, on n'est plus que 6. On a déjà retourné un peu tout ce qu'il y avait retourné dans la forêt. T'as une journaliste qui vient me voir et qui me dit « Oui, Claude, vous n'avez pas été voir là-bas, là, dans le coin là-bas ?» Je dis « Attendez, moi je suis fatigué comme tout le monde, aujourd'hui je fais rien, il n'y a plus rien à manger, j'ai tout retourné déjà, il n'y a rien. »« Non mais t'as pas été voir là-bas et tout ?» Bon, je me dis « Allez, je vais aller voir quand même. » Donc je vais avec un copain, on va avec Coulet, on part là-bas, on regarde, et là on trouve des bananes et de notre coco que la production avait mises parce que probablement on était sur la fin du jeu, tout le monde était fait, plus personne ne voulait rien faire. Il fallait redonner un peu d'intérêt aussi, il fallait remettre un peu d'intérêt aussi et tout. Et donc on trouve les bananes et noix de coco. Et ce qu'il faut savoir, c'est que justement, on n'avait pas de noix de coco, nous, à l'époque, sur l'île. Donc c'était la première fois qu'on avait les noix de coco. Pour moi, la noix de coco, quand tu l'ouvres, c'est la noix de coco, elle est épaisse comme as, on mange, on est content, tu vois. C'est pas la noix de coco brisée où il n'y a rien dedans. Et on mange, donc on calcule les bananes, il y en a 14, ça fait deux par personne, ça va vite. On se mange les deux nôtres. Et là, on se pose, on commence à dire, comment on n'a qu'un sac à dos, comment on va ramener cette noix de coco, il faut nager avec les bananes, on commence à poser plein de questions. Et là, réellement, le journaliste me dit, de toute façon, quoi que vous décidiez, c'est un fait de jeu, il ne sera pas divulgué, c'est votre fait de jeu à vous, il n'y a personne qui est témoin, vous faites ce que vous voulez. En nous disant ça, tu nous enlèves la once de culpabilité qu'on peut avoir, on mange toutes les bananes avec poulet, tu vois. Et on se dit, de toute façon, on s'en fout, on ramène des noix de coco, tu vois ce que je veux dire, il y a à manger. Et on rentre sur l'île, on ouvre les noix de coco, et là, il n'y a rien, les noix de coco, c'est de l'eau. Forcément, t'es vénère, tu t'en culpabilises.
Pas les autres.
Ouais. Bah, tu te dis, ouais, putain, j'avais su, je reviens en arrière, je ramène les bananes, et voilà. Mais voilà, l'histoire, c'est fait
ils
comme ça.
Ils ont fait exprès, tu crois, pour.
Non, bah, pas du tout. Non, ils pensaient qu'on allait ramener les bananes, sûrement, tu vois. Ils pensaient pas qu'on allait en dégommer 7 chacun, tu vois.
C'est vrai que cette banane, c'est beaucoup quand même.
C'est beaucoup. Mais ça passe, hein, au 36e jour, ça passe.
En vrai, si t'as rien bouffé depuis deux semaines.
J'arrive sur le conseil le soir, j'ai pas l'immunité, donc je suis en danger potentiel aussi pour me faire éliminer. Et là, Denis prend la parole et me dit voilà, Claude, expliquez-nous aujourd'hui votre journée, qu'est-ce que vous avez fait, etc. Je dis bon, on a fait un trek, on est parti, on a trouvé des noix de coco. Et dans ma tête, je baisse la tête et je me dis bon, qu'est-ce qui va se passer, se passe pas grand chose. Et là, j'ai Denis qui me tombe dessus en disant non, mais c'est inadmissible. Et
alors, Denis,
tout le monde, ouais, Denis dit non, c'est inadmissible, racontez la vérité. Et là, tout le monde, c'est, franchement, ce jour-là, s'il y avait un trou de souris, je serais rentré dedans, je serais rentré à Paname à la nage, c'est ce que je veux dire. Et je me dis qu'est-ce que c'est? Je dis ouais, c'est vrai, il y avait des bananes. Alors tout le monde, oh les enfoirés, oh ceci, ça part forcément, normal. Et donc là, j'expliquais tout, mais là, Denis, il se fait quand même le juge un peu sur cette émission-là.
Il prend un peu parti, quoi.
Moi, j'ai toujours trouvé, alors après, voilà, c'est mon point de vue. Moi, je trouvais qu'il n'était pas impartial sur ce sujet-là. Il avait pris parti, il avait pris la décision, lui, de le dire, alors qu'on m'avait dit, moi, en off, qu'on
ne serait
pas divulgué. Donc moi, je suis un peu mauvaise. Finalement, je ne sors pas ce conseil. Et c'est mon pote qui est éliminé. Et le lendemain, voilà, je dis à la journaliste, écoute, moi, je me sens un peu trahi parce que ça devait pas être dit. Et voilà, bon, après, c'est un fait de jeu. Mais j'ai envie de te dire, c'est comme tous les jours. Après, j'ai culpabilisé longtemps sur cette histoire. Mais ensuite, avec le recul, quand j'ai analysé la situation, je me suis toujours dit, écoute, en fait, c'est comme si, tu vois, on passe des vacances tous en famille, avec des potes et tout, on est dans un chalet à 3000 mètres d'altitude. Tous les jours, je vais descendre au village, je vous ramène tous des croissants, des pains au chocolat et du jus d'orange. Et un jour, je m'achète un paquet de gâteaux et je le mange tout seul. Et là, tu vas me dire quoi? Ah, l'enculé, mangez le paquet de gâteaux, tu vois? En fait, c'est relou parce que j'ai passé 30 jours, j'ai passé 40 jours à me tuer pour eux, à pêcher, à tout faire pour les nourrir.
Ouais, je trouvais que c'était injuste.
Et au final, ouais, j'ai pêché, ouais, sur le moment, parce que voilà, la faiblesse, elle était telle aussi que on n'est pas infaillible et j'ai failli. Et au jour où on m'en a voulu, tu vois, on m'a traité un peu de style, ouais, l'égoïste. Alors qu'en vrai, c'est l'égoïste, je sais pas qui c'est de nous tous, tu vois.
C'est ça
qui était ouf en vrai.
C'était quoi ton meilleur souvenir? C'était sur les 4 saisons en réalité, vraiment le moment où tu t'es dit, putain, là vraiment j'ai passé un bon moment. T'as eu des bons moments aussi?
Ouais, moi j'ai eu la chance de gagner beaucoup d'épreuves, la chance ou pas, parce qu'après il faut aussi savoir les gagner, mais j'ai eu la chance de pouvoir partager les 2 épreuves que j'ai faites avec les proches. Je les ai gagnés, j'ai pu partager un moment privilégié avec un proche qui a fait quand même qui a traversé un peu le globe pour venir te voir. Et ce moment-là, c'est un peu l'emmener dans ton aventure, qu'elle puisse un peu palper ce que t'as ressenti, ce que t'as fait. La première fois, c'était avec ma sœur, on a dormi ensemble sur le camp, j'ai mangé avec elle, je lui ai expliqué, elle m'a vu tout maigre et tout, tu vois, on a passé un bon moment ensemble, c'était cool. Et la deuxième fois avec ma femme. Donc c'est des moments, tu vois, où quand je les vois, moi, pendant le jeu, où quand ils éliminent quelqu'un, ils se font un bisou, tu vois, ils sont là, putain, moi j'aurais été dégoûté en fait de perdre, de dire, putain, t'as traversé, je préfère que tu viennes pas, que tu viennes et que tu perdes et que tu repartes, quoi.
C'est clair.
C'est relou.
T'as gagné à ces moments-là.
Et donc ces deux moments-là, je les ai gagnés, et ça reste des moments un peu privilégiés, c'est clair.
Est-ce que t'as déjà vécu un moment, là, on parle des meilleurs moments, mais est-ce que t'as déjà vécu un moment tellement difficile que t'as failli abandonner? Est-ce qu'il y a vraiment des moments où tu dis, tu sais quoi, je me cache, j'en peux plus, je suis trop maigre?
Ouais, bah de toute façon, la première aventure 2010, c'est vraiment celle
qui est la plus dure.
C'est la plus dure parce que c'est la découverte. Je dis voilà, tu sais pas où sont tes limites, tu sais pas, c'est l'inconnu chaque jour. Hein, nous, c'est ce qui te pousse à continuer à découvrir le lendemain, c'est d'avoir envie voilà de découvrir ce qui va se passer. Mais plus t'avances, tu t'investis tous les jours, c'est fatigant, tu te vois maigrir, tu vois partir. Et c'est vrai que voilà, j'ai eu un coup de moins bien au 36, je sais plus quel jour, j'en parle un peu dans mon livre où c'est voilà, je suis un peu moins bien et je me regarde et en fait je me dis mais pourquoi je m'inflige ça en vrai,
je me tue
pour tout le monde en fait m'a pris en grippe grosso modo, enfin tu vois, tout le monde parle derrière mon dos, enfin tu vois. Et moi, j'ai toujours fait pour eux, alors peut-être pas de la bonne façon, mais en tout cas, je suis toujours investi aussi pour eux.
Manger cette banane, c'était pour eux.
C'était avant. Avant que je les mange, avant que je me requinque un peu. Mais non, et au final, ouais, je me suis dit, ouais, pourquoi je m'affiche ça? En vrai, je rentre chez moi, tu vois, je voulais même pas pouvoir rentrer dans mes costards, je pèse 2 plumes, là, c'est relou. Et t'as toujours un passage, surtout quand c'est la première, où tu doutes et après ça passe. C'est des up and down, il y en a toujours dans tous les domaines, il y en a toujours. Et dans Koh-Lanta, j'en ai eu un, ouais, sur la fin, c'était dur. J'ai mon pote Valentin, qu'on a eu un, il était jeune, il avait 20 ans. Je pense que Koh-Lanta, à 20 ans, c'est encore plus dur qu'à 30. Et lui, à 20 ans, au début, voilà, il était sportif, etc. C'était compliqué avec la nourriture. À un moment donné, un soir, dans le bateau, on devait voter pour une nana. Il nous dit, non, mais attendez, on va au conseil. Faites-moi plaisir, j'en peux plus, je rentre chez moi, votez pour moi. Je me dis, qu'est-ce qu'il me fait celui-là? C'était pas prévu ce délire, on voulait voter pour la fille. Lui, c'est mon allié, il est avec moi, qu'est-ce que tu fais? N'importe quoi. Et donc là, je lui dis, non, si tu veux qu'on vote pour toi, genre pour que tu fasses un abandon masqué, que tu sortes grand, non, t'abandonnes, tu sors. Et demain, tu t'en voudras parce que tu auras abandonné. Demain, tu auras mangé. Tu te diras pourquoi j'ai fait ça. Ben, le lendemain, m'a remercié parce que le lendemain, ça allait mieux. Tu vois, c'est toujours pour te dire que c'est des cycles et il faut les accepter.
C'est en dents de scie. C'est plus facile pour toi la dernière saison que tu as fait quand tu avais 40 que quand tu avais 30. Tu sens que c'est plus facile avec le recul?
Alors, il y a deux choses. Forcément, c'est plus facile avec l'expérience parce que tu te connais mieux, tu te gères mieux, tu sais où sont certaines de tes limites ou pas, tu sais ce que tu peux accepter ou pas. C'est plus facile dans ce registre-là. Après, deux émissions rapprochées, c'est compliqué. Si tu veux, moi, j'ai fait 2010-2012, très rapprochées les deux, dur. Et après, j'ai eu un gros laps de temps pendant 7 ans où je ne suis pas revenu et j'ai fait 2019 et 2020. Et
grandi entre les deux.
C'est 7 années déjà, j'ai grandi. Et surtout, ça a nourri mon envie, tu vois. Ça a nourri mon envie d'y retourner. Ça a décuplé ce goût.
En revanche aussi.
Voilà. Donc, je suis retourné avec beaucoup d'envie. Et 2020, quand je reviens dans les légendes juste après, dès que j'arrive, déjà, j'ai l'impression que déjà, psychologiquement, je suis fatigué parce que j'ai l'impression de ne pas avoir quitté l'île, en vrai. Tu vois, il n'y a pas eu suffisamment de temps entre les deux pour que je récupère. C'est comme quand tu fais deux courses d'ultra. Les courses d'ultra, c'est les courses de plus de 100 bornes. Si tu les fais trop rapprochées, psychologiquement, c'est dur parce que tu es tellement investi dans la première que de remettre ça dans la deuxième, tu n'es pas aussi impliqué. Et je pense qu'il faut laisser du temps entre les deux aventures pour vraiment pouvoir être à fond dans les deux.
Est-ce qu'il y a des moments pas diffusés, beaucoup de séquences pas diffusées, par exemple, je sais pas, est-ce que tu as déjà eu envie de faire pipi ou autre dans une séquence, et c'est impossible de, tu vois, alors ils filment, mais du coup ils diffusent pas. Est-ce qu'il y a des séquences comme ça un peu drôles?
Je pense qu'on les a vues parce que déjà sur le cochon pognon, on s'est pissé dessus. Sur les légendes, il a duré quasiment 4 heures, je sais plus combien de temps là, 4 heures, un peu moins, peut-être 3h40.
Tu tires pendant 4 heures.
Ouais, voilà. Et à un moment donné, je me suis fait pisser deux fois dessus. En plus, c'est chiant parce que t'es à l'envers, t'es accroché comme ça, donc là, ça, c'est pour le ventre, c'est un peu relou, tu vois. Mais donc là, tu vois, je pense qu'on l'a vu. Ça a pas été coupé, je sais pas.
Ça a été diffusé.
Je pense que ça a été diffusé. Pas sûr. En tout cas, voilà, t'avais eu Grégoire à une époque sur le poteau, il avait envie aussi d'uriner, et s'est tourné, il a fait pipi. Ah non, on coupe jamais, quand le jeu démarre, il n'y a pas.
Il n'y a pas de coupe, peu importe ce qui se passe.
Ah non, ouais, non, c'est clair, il n'y a pas de. À part si t'as un blessé, on va arrêter, ça va blesser, on arrête, tac, on fait une pause, tac, le médecin rentre là pour prendre en charge. Mais sinon, non, si c'est qu'une histoire de toilette, non, il n'y a pas
c'est
de.
Denis, il change vraiment tout le temps de chemise, Denis Brognard?
Ah, il change souvent, Denis. Normal, il fait chaud, il est en plein soleil. Voilà, il a beaucoup de chemises identiques. Et, oui, bien sûr, il change de chemise.
Est-ce que tu as un moment extrêmement drôle qui n'a pas été diffusé?
Je sais pas, oui, il y en a un dans les légendes. Les légendes, c'est vraiment le mot. Il y en a un, on est sur la fin de l'aventure, on est plus que 6 personnes, je pense, 6 candidats. Et on a un dernier jeu d'immunité où ça se passe sur la plage, le jeu, mais avant d'être sur la plage, ça se passe sur un ponton dans l'eau.
Okay.
Donc, on a mangé beaucoup de coco et tout. Certains vont faire caca, pipi, etc. Et on se dirige donc pour se mettre en place sur le ponton. On nage, on nage. On arrive, on monte sur le ponton. Et là, on se retourne. Denis sur la plage est censé annoncer le décompte pour pouvoir démarrer. Et là, on regarde et on pète de rire. On voit deux objets flottants non identifiés, enfin identifiés très rapidement. C'était deux objets qui venaient de Laurent Mestré, flotter. traverser comme ça notre axe, tu vois, de passage. Et on se dit, non, c'est pas possible. Et là, Denis, lui, il le voit pas de là-bas. Donc, il s'en fiche. Tu vois, il dit pas, on fait une pause, attends que ça passe. Il dit, 3, 2, 1, et nous, on dit, attends, c'est quoi ce délire? Tu sais quoi, on plonge. Moi, ça va, j'étais un peu sur le rebord, donc je plonge, je vais passer. Mais je me suis dit, quoi, moi, je vais sous l'eau, mais moi, il faut que je sorte avec la tête pleine de sable, tu vois. C'est pas que je ressors tout de suite. Moi, il faut que je fasse 10 mètres sous l'eau pour passer. Mais on a rigolé, hein, parce qu'on a dit, putain, t'es vraiment un enfoiré quand même. T'as été faire ta commission là-bas, là, on arrive jusqu'ici. Elle arrive là devant nous. Non, mais c'était trop. Qu'est-ce qu'on a rigolé sur ce là? Forcément, ça n'a pas été diffusé, mais sur le ponton, on rigolait. Hein.
Ah, ils ont coupé ce moment, évidemment.
Bah, eux, je ne sais même pas s'ils l'ont vu passer le truc. C'est même pas pourquoi on rigolait, ça se trouve, tu vois. Mais,
est-ce que tu as une vanne sur Laurent Mestré, un truc un peu drôle sur lui?
Ah, bah, Laurent, j'adore, c'est mon frère. Hein. Ouais. C'est vraiment jamais méchant. Je l'aime beaucoup, d'ailleurs. Franchement, Laurent, ce que j'aime chez lui, ce que j'aime particulièrement faire l'aventure avec lui, c'est sa bonne humeur. C'est sa façon dont il a de dédramatiser les choses. Et c'est agréable, franchement, sur une île. Quand t'as des gens qui font la gueule tout le temps, qui sont en train de se plaindre, etc., ça mine, tu vois. Lui, il a toujours ce détachement suffisant pour pouvoir dédramatiser une situation et la tourner à son avantage. Et c'est vrai, c'est comme ça qu'en vrai, il a raison totalement. Donc, au-delà du fait de ça, Laurent, je suis désolé, mais. T'as pas pu sur Koh-Lanta te faire tes couleurs avec tes cheveux blancs, hein, à un moment donné, il fait des couleurs, faut le dire. Hein. Il fait des couleurs. Moi, j'ai dit, j'en ferai pas, hein. Mais Lui, il fait des couleurs.
Mais toi, t'as pas de cheveux blancs.
J'en ai plein. Ils arrivent au taquet.
Ah, ils arrivent là.
Mais non, je ne ferai pas de couleurs. Lolo, lui, par contre.
Ah, il est coquet, Laurent,
normal.
Salut Laurent, t'as regardé, on t'embrasse aussi.
Légende podcast.
Est-ce que vous arrivez quand même à avoir dans les journées de tournage des moments d'intimité pour aller aux toilettes sans que les autres voient? T'as quand même des petits moments Koh-Lanta ou ouais. C'est vraiment t'as des cams tout le temps?
Non, évidemment, forcément, si t'as envie de t'isoler un petit peu, voilà, tu peux en parler, tu peux le dire. Après. La production, elle n'est pas là non plus, t'es obligé à faire les choses, hein, t'es obligé à rien. Donc, quand t'as envie d'aller aux toilettes, forcément, tu dis, là, les gars, là, une seconde, je vais faire ma commission, bah, tu pars, tu fais ta commission. Non, tu peux trouver des moments où tu veux t'isoler, tu t'isoles, tu vas au bord de plage. Après, si tu pars à deux, t'isoler, la production, elle ne va pas les prendre pour des lapins de trois semaines, et si tu vas parler stratégie, donc il faut qu'ils soient là pour écouter ce qui se passe. Mais si tu vas t'isoler seul, tu vas parler à qui? Ça veut dire que tu vas rien élaborer. À partir du moment où tu vas seul, pas de souci. Si tu vas à deux, tu dis à la production, non, là, on va juste, on a envie de pleurer chacun de notre côté. Ouais, c'est ça, prenez-nous des projets.
T'as toujours un micro sur toi?
Alors, on n'a pas de micro, parce qu'on a essayé des perches qui sont très puissantes. On n'a jamais de micro, nous, sur nous.
Ah, c'est vrai, que, okay,
non,
ok, ok.
On n'a jamais de micro, hormis sur certains jeux où il y a les proches, où il faut capter des réactions parce qu'il y a du bruit, mais sinon, jamais.
Et pour parler de la prépa physique, dans ton livre « Zéro limite à tes rêves », je vous ai toujours le lien en dessous, en cliquable si vous voulez, page 132, tu dis « Je ne suis aucun régime et ne me prive d'aucun aliment, je ne crois pas au régime nutritionnel strict ». Tu ne te préparais pas du tout pour Koh-Lanta avant ?
Jamais. Alors déjà, je trouve que pour moi, c'est une
mauvaise idée. Essayer de ne pas prendre du poids avant ?
Bah, alors, il y a cette stratégie-là de dire « j'ai envie de prendre du poids », etc. Mais en vrai, tu veux prendre du poids et si je te sors au bout de deux jours, tu vas faire quoi ? Tu vas parler de ton poids ? Ou si t'arrives avec ton poids et que tu deviens un poids pour ton équipe parce que t'arrives pas à te bouger,
ah oui,
parce que t'as trop de poids.
C'est vrai. Non, il prend un peu de graisse parce que ton corps, il a pompé dedans.
Moi, je pense que déjà, si tu pars comme ça, avec cette idée-là, ça veut dire que tu vas trop loin, tu penses trop loin. Viens comme t'es, avec tes acquis, avec ta vie de tous les jours, et t'es efficace d'entrée.
Être en forme, juste. Quoi.
Et t'es en forme et tu fais ton truc. En vrai, il faut pas chercher à essayer d'amoindrir son régime pour pouvoir s'habituer à moins manger. Il faut pas accroître son régime pour prendre du poids. Moi, je trouve que tout ça, c'est des idées qui sont pas forcément pertinentes parce que là où t'es plus efficace, c'est quand t'es toi-même. Donc,
Et tu sens que la graisse, vraiment au niveau du ventre, pour les hommes, ou je sais pas, le peu de stock qu'on peut avoir dans un corps et tout, tu vois qu'ils font direct quand tu manges pas, ça va vite.
En vrai, ouais, c'est forcément une activité physique, la chaleur, tu bois de l'eau, tu manges pas, forcément tu vas perdre. Mais après, on perd jamais là où on veut perdre. Hein. Tu sais hein, comment ça se passe. Tu peux pas en sport, tu peux pas cibler. Hein. Ah, je veux juste perdre là. Tu vois ce que je veux dire. Non, tu perdras pas juste là.
Généralement,
tu vas perdre là où t'as pas envie, et c'est ça qui est chiant. Pour ça, en sport, en fait, si tu veux avoir une silhouette bien, il faut que tu travailles tout parce que tu peux pas cibler un endroit précis où tu veux perdre ton poids.
Il faut pas juste faire des abdos, par exemple, pour perdre.
Mais non, bien sûr que non.
Et tu dis aussi, page 24, tu dis que t'as fait un Paris-Deauville à vélo, 200 bornes à peu près.
Il y avait 350 sur la vraie. On me l'avait vendu comme 170 bornes. C'est comme ça que je m'étais dit, bon, allez, 170 bornes à vélo. Ça se fait, c'est une grosse étape du Tour de France. Et finalement, je suis retrouvé avec 350. Bon.
350 ?
Ouais, parce que forcément, c'est Steven Le Haric, c'est un ami aventurier, qui est c'est un ancien cycliste aussi de très haut niveau, que j'ai rencontré au Marathon des Sables, qui était dans ma tente, qui lui fait que des aventures comme ça, extra longue distance, que ce soit en course à pied, mais surtout en vélo. Il a créé le Gravelman, qui est maintenant une discipline à part entière. C'est un vélo qui est plus ciblé chemin de forêt, mais il a fait aussi une version route. Donc c'est dans son Gravelman, c'est il prend deux distances et il te dit voilà, tu relis le point A au point B, mais lui il te fait faire des trucs comme ça, donc c'est jamais droit, et il y a du dénivelé, et t'as une section route où c'est que du bitume, tu peux le faire en vélo de route, ou une section forêt, tu fais en VTT. Et moi on discute dans la tente, il me dit Claude, un Gravelman ça te dirait de venir, etc. Si tu veux, un patrimoine chez toi, il y a le Paris-Deauville, etc. Bon, ma tête, Paris-Deauville, c'est toujours fait aller 170 bornes.
Mais si tu fais pendant une journée quand même.
Bah je sais, mais si 170 bornes une journée, ça se fait, tu vois. Je dis ok, d'accord, je le ferai. Je m'étais pas préparé, j'avais rien fait du tout. 15 jours avant, je me rappelle que je reçois un mail comme quoi c'est le Gravelman, etc. Je l'appelle, il me dit « Ah, mais je crois que t'allais pas venir, je crois que tu rigolais. Ben, » Je dis « Ben si, j'ai mon vélo, écoute, je suis dispo ce jour-là, je viens. » Il m'envoie le descriptif, je vois 350 bornes. Je dis « Putain, mais c'est pas, on est loin de 170 bornes, là !» Et finalement, tu vois, ça s'est fait, mais super expérience.
T'as pas fait en une fois, 350.
Ben, de base, je voulais le faire en une fois, je vais pas tout dévoiler parce que c'est écrit dans le livre et les gens qui pourront découvrir. C'était l'idée principale, c'était de le faire en une fois, mais ça s'est pas déroulé totalement.
Je cite juste une phrase que tu dis, commence avec tes jambes, finis avec ton mental.
Ouais.
Parce qu'à la fin, t'as plus de jambes.
Ouais, tu démarres toujours, de toute façon, avec ton physique, et c'est toujours lui qui t'emmène au début, avec la forme du moment, et sûrement, ce qui te permet de terminer dans des aventures qui sont longues et fatigantes, c'est ton mental. Et peu importe qui tu es, tu peux très bien avoir un physique moins important qu'un autre, mais si t'as un plus gros mental, tu finiras mieux.
On va parler de ta femme dans deux minutes, là. Tu parles d'elle dans le livre, page 153, je vais revenir juste avant. Pour comprendre le parcours, parce que tu dis qu'il t'a beaucoup aidé, t'as beaucoup soutenu tout le temps. En 2021, tu devais gagner la 20e saison de Koh-Lanta, ce qui t'a fait finaliste les trois premières fois, hein, si je ne dis pas de bêtises. Et la quatrième fois, t'es accusé de triche et tu n'as pas l'argent a posteriori. Qu'est-ce qui s'est passé là ?
Bah oui, il y a eu des faits qui ont été avérés comme quoi il y avait un manquement au règlement. La production a pris une décision, c'est de pas annoncer de gagnant. Bon, manque de chance pour moi, c'est moi qui devais être le gagnant. Donc c'est moi qui suis
impacté. Enfin, en plus, pour la quatrième fois,
t'aurais
pu gagner.
Ouais, ben mon nom, il est dit qu'il sera jamais écrit dans le palmarès. Mais... tu sais, moi, ça fait partie du passé. C'est
partie de la vie. C'est qu'une émission de télé, on ne sauve pas des
Ouais, vidéos, mais même au-delà de ça, il y a eu tout un braquement autour de ça. Moi, j'ai jamais relevé parce que j'aime pas, moi, tous ces trucs autour de choses que les gens ne savent même pas, vraiment. Les gens qui parlent, c'est ceux qui sont jamais présents. Donc, c'est toujours marrant.
Il y a ceux qui font, il y a ceux qui commentent aussi.
Voilà. J'ai juste envie de dire que moi, la production, j'ai des bons rapports avec eux. J'ai accepté la décision. J'ai même travaillé avec eux récemment. Il y a des choses qui sont en place qui verront le jour l'année prochaine. Donc moi j'en veux à personne, j'ai pas d'amertume envers personne, voilà. Je suis content de mes aventures, gagner ou pas gagner, j'ai gagné les quatre comme je dis, même si mon nom n'y est pas.
Ouais, t'es arrivé à chaque fois que tu l'as fait, au minimum en finale.
Voilà, à chaque fois je suis allé au bout, c'était mon objectif de base, parce qu'il y a toujours des objectifs, il y en a deux, trois dans l'aventure, mais l'objectif de base c'est quand même d'aller au fond, au bout du jeu, et c'est pour ça que moi j'ai jamais eu de regrets sur aucune de mes aventures, parce que j'ai été au bout, j'ai vécu pleinement tout ce qu'il y avait à vivre, j'ai gagné des jeux, j'ai voyagé, j'ai partagé, enfin voilà.
En tout cas, tu l'as accepté, t'es pas en mauvais terme avec la
production. Mais jamais, la production, je m'entends très bien avec eux, j'ai jamais eu de soucis.
C'est ALP, hein, c'est ça, c'est
ALP, joué. Oui, on a entendu même, au-delà de ça, on a entendu plein de choses, mais moi, j'ai jamais été en conflit avec eux, jamais rien.
Et du coup, la prod a décidé de donner, pour expliquer, pour ceux qui n'ont pas suivi les émissions, c'était 100 000 euros qu'il avait gagné, ouais. Et ils les ont donnés à une association.
Bah, c'est l'association de Bertrand Kamal, ouais, qui était un candidat de la saison, je ne sais plus, il n'y a pas si longtemps que ça, qui est mort du cancer du pancréas. Donc voilà, pas pendant le jeu, mais à la suite du jeu, peu de temps après le jeu.
Juste avant la diffusion, je crois, entre le
tournoi. Ouais, avant la finale, ouais. Il n'a pas pu assister à la fin du jeu, à la fin de la diffusion du jeu, il est parti entre temps. Donc voilà,
bon, c'est une
belle association. Je ne connaissais pas personnellement, mais bon, voilà, tous les gens qui l'ont côtoyé sont unanimes pour dire que c'était une belle personne. Donc je suis content que ça puisse le revenir à lui.
Mais au moins, l'argent est parti là-bas. Et toi, t'as été payé.
De toute façon, je m'en fous, tu vas me payer là parce que je suis venu aujourd'hui. En plus, tu m'as viré des traîtres. T'as failli à mon association. Mon association est très fâchée contre toi.
Mais moi aussi, mon association est très fâchée contre moi. Et t'as gagné de l'argent quand même, toi, sur les autres. Pas de somme, je m'en fiche. Hein. Mais tu disais après, t'es payé à partir de 2012, c'est ça ? Il y avait un salaire.
Oui, de toute façon.
En tout cas, t'avais un minimum à chaque fois.
Ouais, en 2010, en 2012, je ne sais plus jusqu'en quelle année, le finaliste avait aussi un gain. Il avait 10 000 euros. Le gagnant avait 100, le deuxième avait 10. Donc moi, j'ai pu bénéficier des 10 sur 2010 et 2012. À chaque fois, j'ai pris les 10 000 de la finale. Et ensuite, ils ont arrêté sa deuxième place. Mais en soi, de toute façon, je ne suis jamais allé pour l'argent, mais tu gagnes, oui, avec les droits d'image, la prime de confidentialité, t'as deux, trois choses qui font que t'as un cachet global, mais la vérité, c'est que même s'il n'y en avait pas, les gens iraient, parce que c'est le goût de l'aventure, c'est ça qui est primordial chez les gens.
Et en tout cas, ce qui est important à comprendre, c'est que ça ne doit pas être facile de tricher dans une émission comme ça, dans le sens où on imagine toujours que vous dormez à l'hôtel, c'est ça, dans les rumeurs et tout, machin, ouais, en fait, tout est un peu fake, et tu dis que non.
Mais on ne dort pas à l'hôtel.
T'es sur une île en plus, donc si tu dis que t'as perdu 15 kilos, c'est que t'as vraiment pas beaucoup mangé.
Moi, j'ai toujours dit, de toute façon, c'est un peu, tu sais, comment on pourrait dire ça ? On imagine toujours plein de choses autour des mythes, autour des parce que forcément, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas vues, qui ne sont pas montrées sur 40 jours. Mais je te dis, demande à tous les candidats qui ont participé, il n'y en a aucun qui va dire qu'il a dormi à l'hôtel. Et à un moment donné, il y en a bien un qui a porté plainte contre la production parce qu'il voulait récupérer de l'argent. Il y en a bien un qui a la rage envers la production parce qu'il n'est pas content de l'image qu'il a eue. Il te dirait, lui, s'il avait dormi à l'hôtel.
Et t'es pas tenté de cacher un truc, justement, Mars quelque part, tu sais, quand
ouais, mais tes affaires sont fouillées, tu vas cacher quoi? Ou,
ah, tout est fouillé?
Tu vas emmener ton sac, tu le donnes. Je pense qu'il passe ton sac au peigne fin. Non, mais tu peux rien.
Il regarde.
Ouais, en fait, une fois, je pense que, voilà, j'avais mis peut-être un caleçon en plus dans mon sac et ils l'ont enlevé, tu vois. Donc ça prouve qu'ils surveillent les sacs.
Ah oui, t'as chacun le même
pactage. Ouais, chacun un pactage avec deux slips, deux trucs et ça. J'ai dû mettre un troisième caleçon et j'ai jamais eu mon caleçon, tu vois.
Donc c'est très très difficile de tricher dans un buisson comme ça.
Bien sûr.
Est-ce qu'on t'a proposé des tournages à la suite de Koh-Lanta, puisque t'avais une cote de popularité, tu l'as toujours énorme. Est-ce qu'on t'a proposé des tournages en tant que comédien, en tant que, j'en sais rien, série, film? Est-ce qu'on t'a proposé d'animer des trucs? Est-ce que t'as eu des propositions différentes?
Oui, j'ai eu pas mal de propositions. Camping Paradis.
Ah, c'est vrai?
Ouais, on m'a proposé un rôle principal en plus avec.
Ah bon?
Ouais, sur un épisode complet.
Avec Cournac?
Ouais, non, mais après, c'est des choses, je me sentais pas réellement de le faire, même si j'aime bien faire des nouvelles expériences. Là, je trouvais aussi, tu vois, c'est pas le livre, quand on me l'a proposé au tout début, ou les émissions qu'on m'a proposées, je trouvais que c'était juste des offres pour profiter du fait, voilà.
Ouais, de la notoriété.
La notoriété naissante que j'ai eue. Et en vrai, c'est pas des projets qui étaient construits réellement pour moi, mais juste des projets ou des rôles que je devais incarner. Et c'est pas la même chose, tu vois. Quand on fait un programme pour toi, on le fait en fonction de toi, tu t'y retrouves dedans, il te plaît. Dans ces cas-là, j'aurais accepté. Les propositions que j'ai eues, c'était pas des propositions. On aurait pu les mettre à n'importe qui. En fait, n'importe qui aurait pu les faire. Et,
ouais, tu voulais pas faire tout et n'importe
non,
quoi.
Non, ça me correspondait pas.
On t'a proposé des placements de produits un peu éclatés, un peu bizarres. T'es là, tu dis, bah non.
Ouais, bah j'ai eu le droit aussi à mon lot de blanchiment de dents. Ah ouais, moi je me suis toujours donné comme morale et comme éthique d'éviter de faire ce que tout le monde fait, des codes promo à tout va, etc. Sur n'importe quel produit, et j'essaie de vérifier tous les produits qu'on me donne à vendre ou en tout cas à mettre en avant.
Oui, pas faire juste.
Voilà, qu'ils soient de bonne qualité, qu'ils soient un bon rendu, qu'ils soient quand même un minimum bon. Et surtout, enfin, voilà, j'ai des jeunes aussi qui me suivent, même si c'est pas la plus grande partie de ma fan base, entre guillemets, en tout cas des gens qui me suivent.
La communauté,
c'est ça que je voulais dire. C'est pas forcément la plus grande communauté, mais tu vas pas dire à un gamin de 15 ans ou de 12 ans, vas-y, va acheter mon truc 10 balles. Enfin, tu vois, ces trucs, ça me ferait chier, en fait.
Ouais, je comprends. L'éthique du truc.
Ouais. C'est relou. J'ai un code promo de 20 euros, va l'acheter et grâce à toi, je vais gagner 3 euros. Non, franchement, je peux pas faire comme ça. Je peux pas.
Légende podcast.
Est-ce que t'as déjà eu un moment gênant avec un fan X ou Y dans la rue? Est-ce que ça t'est arrivé d'avoir une situation un peu drôle?
J'en ai eu plein, hein. J'en ai eu une. Déjà, je me souviens une déjà, j'étais à Cancun, c'était bien avant 2019 et 2020, j'étais à Cancun, à un moment donné avec ma femme, on était dans une soirée, et il y avait un groupe de mecs qui étaient là, dont un très costaud, très balèze, et d'un seul coup, il me voit, il me fonce dessus, je me dis, oulala, qu'est-ce qu'il me veut? Il va, ouais, Claude, ouais, il arrive comme ça, il pousse tout le monde, etc. Mais vraiment balèze, hein. Il me soulève comme ça, il me serre, il me soulève comme ça, il me jette, il me fait, trop comme ça, il me tient comme ça, et moi je suis comme dans ses bras, et je me dis putain, mais c'est un ouf. Et en vrai, tu vois, c'est juste pour. C'est drôle parce que je discutais avec d'autres personnalités que j'ai rencontrées entre temps, des sportifs et tout, et ça leur arriverait pas à eux. Parce que les gens, ils ont un recul.
Une espèce de barrière.
Voilà. Moi, je suis ton pote parce que je suis en calbut sur une île, tu m'as vu, je suis monsieur tout le monde. Donc, en fait, je suis proche et ça me plaît d'être comme ça. Donc, moi, ça me dérange pas que les gens, ils viennent. Mais c'est vrai que des fois, ça peut être surprenant. J'ai une dame, encore l'été dernier, j'étais avec ma femme et mes enfants. Elle demande à faire une photo avec sa famille. Elle est avec son mari et ses enfants. Et je me mets donc à côté d'elle. Elle me tient et je sens, quand elle me tient, elle est comme ça, tu vois. Et je me dis, bon, qu'est-ce qu'elle se passe? Et ma femme, elle lui dit, moi je la vois pas parce qu'elle est à côté de moi, ma femme, elle lui dit, bah, vous mettez pas à pleurer. Et en fait, elle pleurait.
Ah, trop mignon.
C'est mignon, mais c'est gênant. Ouais, de ouais, ouf pour dis... moi, parce que moi, je me dis, mais attends, moi en fait, mais je suis comme toi, j'ai deux bras, j'ai deux jambes, j'ai
juste fait une
télé.
Pas, pourquoi ouais,
pourquoi tu te mets dans cet état-là? Moi, je sais pas, je verrais Zidane, à la limite, peut-être que j'aurais fait ça vite fait, mais encore. Mais
j'ai, oui, c'est un métier finalement.
J'ai toujours eu du mal avec la fan attitude, parce que j'ai jamais non plus, peut-être moi, idolâtré quelqu'un au point de me mettre à pleurer. Donc,
Et t'as eu des haters, des mecs qui étaient tellement à fond dans Koh-Lanta? qui n'ont pas apprécié quand t'as éliminé un candidat
Oui.
Est-ce que t'as des mecs dans la rue qui viennent te voir
La rue, jamais dans la rue, les gens vont venir te voir pour te dire j'aime pas ta gueule, t'as vu, ça peut se finir.
Non, mais ça aurait pu, s'il y a des fans.
Ça sert à rien, en vrai, où l'intérêt de venir et dire à quelqu'un j'aime pas ta gueule, alors, mais si tu veux que ça
termine mal. Ils le font bien sur les réseaux.
Non, mais c'est con. Non, mais les gens le font toujours à couvert, sur anonymat, c'est classique. C'est pour ça que je dis, faut jamais prendre. Moi, je me suis jamais pris la tête. Le message, je vois un message, le gars commence à mal parler, c'est trois petits points, je te bloque, tu rentres chez toi et je parle pas avec toi. En vrai, je vois même pas l'utilité, je te donnerai même pas un droit de réponse, un droit de retour, parce que pour moi, t'es insignifiant, ces trucs-là. Viens dans la rue, on discute si tu veux, mais un message à ton ordinateur de haine, ça rime à quoi? J'ai toujours dit aux autres candidats, pourquoi tu réponds? Les commentaires, pourquoi tu réponds? Te prends même pas la tête, tu perds de l'énergie, du temps à répondre à quelqu'un, ça mérite même pas en vrai.
Oui, t'en as pas eu en vrai, en tout cas, ils sont venus te voir, mais c'est drôle.
Non, si, il y en a un, il s'appelle Guillaume Play, et il m'a dit, pendant les... j'ai fait l'émission avec lui, les traîtres, et il m'a dit, de toute façon, toi, tu vas toujours énerver, faut que je te vire.
Toi, t'es marié, t'as deux enfants.
Oui.
Aujourd'hui, ils suivent un peu quand tu fais des émissions, ils te regardent.
Moi, j'ai toujours préservé mes enfants. Bah, le petit dernier, encore plus parce que lui, il ne regarde pas la télé. Il a 3 ans et il a le droit à un dessin animé le week-end de temps en temps. Donc ça, c'est pas facile pour lui parce qu'il en veut plus, mais c'est comme ça.
Il veut toujours plus de dessins animés.
Ouais, il aime les dessins animés et les bons becs. Comme par hasard.
Tout ce qu'il ne peut pas avoir tout de suite.
Tout ce qu'il ne peut pas avoir. Et le grand, je lui ai jamais dit, viens papa, ce soir il est allé dans l'émission Koh-Lanta, viens regarder, etc. Jamais, tu vois.
Jamais.
Parce que non, parce que voilà, va expliquer à ton... Enfin, j'ai pas envie... je veux qu'il me regarde comme un papa et pas comme quelqu'un qui a fait une émission à la télé. Ou
monsieur, monsieur.
Que ce soit. Moi, je suis ton père, j'ai deux bras, j'ai deux jambes, comme je le dis. Je suis comme. Voilà, me vois. Je suis pas Claude de Koh-Lanta pour toi.
Quand tu fais un mois de Koh-Lanta ou d'une émission, tu n'as aucune nouvelle de tes enfants ou tu as le droit de les appeler en cachette une heure?
Aucune nouvelle, rien d'ailleurs.
Tu n'as rien du tout. Non, ça doit être le plus chiant.
Ben, en vrai, moi, je suis assez hermétique à ça. Je suis pragmatique aussi. Je sais que je pars 40 jours. Je sais que ma femme, elle va prendre soin d'eux. Je sais que voilà, ils sont dans leur truc, dans leur environnement. Justement, je veux pas avoir de nouvelles plus que ça. Le courrier, j'ai jamais trop cherché à l'obtenir dans mes émissions, à l'avoir. J'ai toujours dit à ma femme, t'embête pas à faire des grandes lettres ou quoi que ce soit, parce que si j'arrive face au courrier, je donnerai ma place à quelqu'un et tout. En fait, si tu veux, le courrier, c'est bien. Oui, c'est clair, c'est cool. Quand tu sais que t'as pas de date de retour, forcément, ça manque. Mais moi, je sais que j'ai 40 jours. 40 jours, c'est formaté. 40 jours, hop, je reste comme ça, et dans 40 jours, je vais les revoir, je vais reprendre ma vie, etc.
Oui, tu vas rattraper le...
Quand tu prends ton courrier en cours d'émission, je le vois souvent avec les autres candidats, tu ressasses tout le temps, t'es là, tu reprends ton courrier, et tu retournes en fait dans un sentiment toi, de tristesse, mélancolique et tout. Et en vrai, ça peut avoir un bon effet sur certains, mais sur la plupart des gens, ça a un effet plus négatif. Inconsciemment, ils le savent pas, mais ils sont plus dans le jeu. Tu vois, je veux dire, ils se détachent du jeu. Et, tu vois, et
ça peut les affaiblir psychologiquement.
Moi, en tout cas, je pense que pour moi, ce serait négatif.
T'as appris que ta femme était enceinte de ton deuxième enfant pendant le tournage, ouais. Comment tu l'as appris?
Alors là, pour le coup, c'est un peu exceptionnel parce que normalement, t'as pas de nouvelles comme ça ni rien. Et moi, je suis parti en 2019, ma femme est tombée enceinte. Elle a fait un test pendant que j'étais parti. Et donc, c'est mon deuxième, Marceau. C'était pas forcément, on l'avait pas forcément discuté d'avoir un deuxième ou pas. Donc, ma femme a écrit un mail à la production en lui disant, voilà, je viens d'apprendre que j'étais enceinte, etc. J'ai juste besoin de savoir ce que Claude en pense, etc. Est-ce que vous pouvez transmettre ce message-là, nanana.
Oh, putain, la vache.
Donc, en fait, je pense
c'était
que...
filmé, ça
Non, c'est pas filmé, non. Donc là, moi, j'arrive sur un jeu, et là, on me dit, pour pas que tout le monde le sache, Claude, le médecin veut te voir. Moi, je dis, le médecin veut me voir, qu'est-ce qui se passe? Alors, on veut surtout pas voir le médecin quand t'es à Koh-Lanta, à part sur les petits bobos, mais parce que sinon, c'est mauvaise nouvelle.
Ah oui, si tu sors,
ouais, c'est le seul qui peut décider de dire, ton aventure, elle est terminée. Je dis, comment ça, le médecin? Je lui dis, non, c'est bon, j'ai pas besoin de voir le médecin, ça me va. Ah, mais Claude, tu vas voir le médecin. Ah bon? On m'impose d'aller voir le médecin. Moi, j'y vais comme ça, et là, j'avance, et je trouve, c'est Julien Magne, qui est de la production, qui est le producteur de Koh-Lanta, qui m'intercepte, et qui me dit, Claude, normalement, je le fais pas, ça. Tiens, prends le téléphone et regarde. Là, je prends son téléphone, je lis, et là, je lis le mail de ma femme. Forcément, ça me prend tout de suite. Je suis en larmes et tout, et je lui dis, réponds-lui, bien sûr, que je suis OK, il n'y a pas de souci, et que tout va bien, etc. Donc, ils lui ont fait une réponse.
Magnifique.
Et je suis reparti. Et quand je suis reparti, j'essaie de sécher mes larmes et tout, tu vois. J'avais les yeux rouges, je me suis dit, je dis à Julien, qu'est-ce que tu fais? J'en parle pas aux autres et tout. Il me dit, c'est mieux que tu n'en parles pas aux autres. C'est très mieux que tu n'en parles pas aux autres, tu vois. Mais c'était tellement dur de pas en parler.
C'est officiel que t'es mis.
Oui, mais en vrai, je suis retourné. Déjà, il y a Moussa, qui est un bon ami sur l'île, ça, qui m'a regardé, qui m'a dit qu'est-ce qu'il y a, etc. T'es pas normal, etc. Et donc, moi, je dis non, ça va, etc. Et à la fin, je lui ai dit, En fait, c'était tellement une joie, j'avais tellement envie de le partager.
J'étais obligé de le dire.
Que vraiment, j'avais envie, tu vois, je veux dire, c'était une grosse joie pour moi. Et donc finalement, j'ai commencé à le dire un peu à tout le monde.
Et après, ils l'ont dit à la télé ou pas du tout?
Non, je pense pas, non, je pense pas. Mais,
C'était pas officiel. Mais ça, c'est sympa de la prod.
Mais franchement, ouais, j'avoue, c'était cool. Et de toute façon, je pense que voilà, c'est un fait important quand même. Sans la production, elle est pas là pour t'isoler de tout. Si t'arrives quelque chose de grave dans ta famille, forcément, tu vas être au courant. Voilà, il y a pas de. Ah ben non, jamais. Ils appellent chaque semaine chacun de tes proches pour donner des nouvelles, savoir de l'évolution. Oui, ça se passe bien, ne vous inquiétez pas. En fait, il y a un suivi quand même. Ça.
Ah oui, d'accord. Bah, oui. Même si tes enfants sont malades ou ils ont une.
Non, mais même, je veux dire, chaque semaine, les parents peuvent. Enfin, un membre de ta famille peut envoyer un message à la production, prendre des nouvelles, la production va répondre, etc. Vous inquiétez pas, il est encore dans le jeu, tout va bien.
Il y a un suivi quand même.
Oui, évidemment.
Et dans ton livre, tu dis, page 153, tu parles de ta femme et tu dis, elle joue un rôle sans doute ingrat, mais tellement important, elle fait partie intégrante de la réussite de tous mes projets. C'est obligatoire d'avoir quelqu'un de solide à côté de toi quand tu fais ce genre d'événement.
Bah ouais, c'est important, c'est comme dans les jeux, hein. Il te faut quelqu'un sur qui t'appuyer dans les moments, t'es pas toujours maître de ton destin, et d'avoir quelqu'un sur qui échanger, t'appuyer, avoir un retour. Et bah, Virginia joue ce rôle-là, elle a déjà le rôle de la maman qui peut me permettre de partir l'esprit tranquille en me disant qu'elle gère tout.
Oui, tu sais
elle
que
c'est pas évident pour elle non plus, hein, des fois, hein, tu sais. J'ai tout mon neveu, tu vois, Claude, ouais, on peut faire une photo, que de ceci, que de cela. C'est pas, moi, je pense que si j'étais à sa place, des fois, ça me saoulerait. C'est pour ça que je lui dis des fois, t'arrêtes pas, fais ton truc, etc. Mais ouais, voilà. Elle est de bons conseils toujours. Elle me dit, suis ton instinct, fais ce que bon te semble. Voilà. Je la mets toujours au centre de ma réflexion, en incluant au maximum. Je protège mes enfants, mais ma femme, je l'exclus pas. Quoi.
Tu parles dans le livre, pour terminer là-dessus, zéro limite à tes rêves. Tu parles du coup d'avoir le mental, etc. On parle souvent d'échecs dans les podcasts américains, justement, où il y a des entrepreneurs ou quoi qui ont donné des conseils. On parle souvent d'échecs parce que c'est là où tu apprends. Est-ce que tu as eu un échec qui t'a appris quelque chose pour terminer dans ta vie pro ou pas pro d'ailleurs?
On a tous des échecs. Enfin, tout dépend de ce que tu appelles un échec. Moi, j'aime pas trop ce mot-là, échec, parce que même dans la chose que tu ne réussis pas, il y a des choses positives.
Bah, c'est comme ça que tu apprends. C'est ce que disent d'ailleurs beaucoup d'entrepreneurs.
Évidemment.
Il faut avoir des échecs.
Après, réellement, en soi, tu peux pas te satisfaire de tout. Moi, j'évite de regarder en arrière et d'avoir des regrets, parce que vivre de regrets, c'est t'empêcher d'aller de l'avant et de voir les choses différemment. Par exemple, je pourrais juste prendre l'exemple de l'armée. À l'armée, si j'avais été plus patient, j'aurais pu faire une carrière différente. Si j'avais, mais tu sais, tous ces si, là, en revenant en arrière, les ressasser, si c'est pas constructif pour te dire, ben voilà, là, tu vois, c'est la patience qui t'a fait défaut. Donc la patience, c'est une qualité ou c'est un défaut sur lequel il faut que tu travailles. Ça, oui, ça, t'as le droit. Mais si c'est ressassé pour te dire j'ai un manque de quelque chose, j'ai un regret, non, parce que ce qui t'a amené là, c'est le choix que t'as fait avant. Et tu peux pas tout rechanger parce que tu reviendras jamais à la personne que t'es. Tout changer dans ces cas-là, change ton attitude, change ta façon de voir les choses. Mais arrête de vouloir à chaque fois prendre ce qu'il y a dans le passé et de chercher une explication du pourquoi et du comment. Ça, c'est fait. Soit objectif, soit carré, pense à l'avenir. Tu sais, j'ai toujours dit une chose, le passé, vivre dans le passé, c'est pas bien parce que le présent, c'est ce qui importe, c'est l'action, c'est le moment présent, c'est là tout de suite. Le futur, c'est justement l'action que tu vas mener après. Mais les actions que tu as déjà menées, laisse-les, elles sont faites, ça y est, stop. Si tu passes trop de temps là-bas, t'oublies l'instant présent et t'évites de profiter de l'instant que t'es en train de faire là. Donc non, vis l'instant présent, fais ce qui est bon pour toi. Les choix, t'en fasses des bons ou des pas bons, on en fera tous à un moment donné qu'on peut-être on se dira sur ah, ce choix était pas top, mais tant pis, ça y est.
Pour terminer, juste, est-ce que toi t'as déjà vécu, on en parlait tout à l'heure avec. Tu nous parlais de ta jeunesse, comment t'as grandi, l'armée, etc. Je demande parfois aux invités, c'est assez drôle, surtout aux gens qui ne sont pas bagarreurs, est-ce que t'as déjà vécu une bagarre un peu rigolote?
Moi, j'étais très bagarreur, petit.
C'est vrai?
J'étais très bagarreur parce que je pense que voilà, c'est aussi dû justement à la disparition de ma maman. J'avais toujours cette rage en moi, cette injustice de me dire pourquoi ma mère à moi elle est partie. Tu vois, c'est pour moi c'était injuste, c'était pas normal. Et quand j'entendais un garçon ou quoi que ce soit qui m'a envoyé une insulte avec ma maman dans le centre de l'insulte, tout de suite ça me montait et je partais.
Ah, tu laissais pas passer quoi.
Ouais, et puis ça, il y avait ça. Il y avait aussi le fait que j'étais un peu plus, j'étais pas forcément le plus grand, le plus costaud. J'ai grandi tard. Donc j'ai toujours aussi eu besoin de m'affirmer, me faire respecter. Donc à cette époque-là, il n'y avait que les points et le courage pour se faire respecter, même si tu ne gagnais pas forcément. Donc beaucoup de bagarres en boîte, partout, à tous les âges, au rugby. Enfin voilà, c'était ça. Et il y en a une en particulier, ouais, qui... Elle est plus marrante maintenant et avec le recul. C'était comme dans un film. Je travaillais dans le 16e arrondissement de Paris, à rue Victor Hugo, dans un restaurant. Je faisais la coupure et à chaque coupure, pour ne pas rentrer chez moi dans le 19e, je restais sur place pendant 2-3 heures avec des potes, serveurs, et on était là. Et un jour, tu as un gars qui passe avec deux nanas, un grand, là, il demande une cigarette à mon collègue. Mon collègue lui dit non. Et en partant, il l'insulte gratuitement, il lui prend la tête. Bon, moi, je me suis, à l'époque, voilà, j'ai pris sa défense, je lui ai dit, mais qu'est-ce que t'as ? On se prend un peu la tête, ça part en cacahuète, ça se met des pralides. Et les filles, entre-temps, elles appellent les copains et tout dans le secteur. Plus je mettais des coups, plus les gens arrivaient. Il y en avait de partout.
C'était Astérix, le truc.
Mais c'était la folie. Que des gamins en scooter, ils arrivaient avec les casques et tout. Ils voulaient me taper avec les casques, etc. Mais n'importe quoi. Moi, je courais. J'étais en mouvement. Je courais comme ça. Je mettais des pralines, des coups de pied à gauche, à droite. Un vrai film. Moi, j'adorais Bruce Lee à l'époque. Mais c'était un peu ça, comme ça. Et à un moment donné, je cours. Je mets une feinte. J'ai un casque qui arrive, qui tape par terre. Il y a un type sur un scooter qui me dit tiens, tiens, tiens. Donc je cours vers lui comme ça. J'attrape ce qui me tend dans la main. Et là, le U qui me tend. Et quand je le saisis, je me dis ah ouais, mais non, mais je peux pas taper avec ça en vrai. Sinon, je vais en tuer un, tu vois.
Ah ouais, évidemment.
Et donc je saisis. Je dis non, laisse tomber. Il me dit bah vas-y, monte, je t'emmène. Hop, je suis monté avec lui. On est parti au commissariat en bas. On est revenu. De l'histoire. Je reviens avec la police, j'arrive sur place, la police qui me dit monsieur, on va vous arrêter, etc. Je dis comment ça ? Elle me dit bah ouais, regardez tous les blessés que vous avez fait là, etc. Je dis mais attendez, c'est moi qui me suis fait agresser, etc. Et en fait, la nana comprenait pas qu'il soit blessé et pas moi. Et je dis ouais. C'est pas de ma faute si moi j'ai réussi à m'en sortir, etc. Et au final, il y avait beaucoup de. Bon, il y avait, je sais pas, on devait tous avoir. Moi j'avais 18 ans, il devait y avoir des 15, 16, des 19 ans là-dedans, dans le lot. Et heureusement, c'est une dame qui était témoin de la scène, qui avait même ramassé un petit couteau sur la place, ah, et qui a dit, attendez, c'est lui qui s'est fait agresser, confondez pas. Et donc voilà, j'ai juste dit au gamin, parce que moi je travaillais dans le secteur, je voulais pas qu'à chaque fois on m'attende après, je revienne. J'ai dit au gamin, écoutez, moi je porte plainte contre personne, si on en reste là, etc. Et ça s'est terminé comme ça.
Ah ouais, putain, la vache.
Mais ouais, c'était tendu. Après, quand je revenais, je faisais gaffe parce que je me disais, surtout, je vais me faire attendre par toute une bande, là, ils vont me sauter dessus. Mais oui, donc j'étais bagarreur, mais je pense que dû à la colère aussi de la perte de ma mère, je me suis estompé avec le temps et ça m'a assagi aussi.
Et ben, allez lire tout
ça. Parce qu'on résout rien avec les points.
Exactement. C'est... Allez acheter le livre si vous voulez le lire de Claude, Zéro Limite à tes rêves, voilà, aux éditions Marabout. Je vous mets le lien en dessous. Cliquable si vous voulez le télécharger. Je vous mets les liens aussi des réseaux sociaux de Claude si vous voulez le rajouter sur Insta & Co. Je mets tous les liens cliquables dessus. Merci de vous abonner en masse à Légende sur YouTube et d'être vraiment de plus en plus nombreux. Continuez de mettre des commentaires, envoyez de l'amour, ça fera plaisir aussi. Et puis, petit pouce en l'air, la petite cloche classique. Merci beaucoup d'être
merci
venu.
Merci, mon Guillaume. Merci pour la gentillesse.
C'est un plaisir.
Longue vie à Légende, longue vie à toi.
Merci beaucoup. Merci. Merci tout le monde. À la semaine prochaine.
Bye.
Légende Podcast.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
Kayla Itzinas. I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Vous venez d'écouter un épisode de Légende. Retrouvez cette interview et toutes les autres sur nos réseaux sociaux, YouTube, Instagram, Snapchat et TikTok. Vous tapez Légende, L-E-G-E-N-D. Et si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous et pensez à lui mettre 5 étoiles. Merci.